Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, vous écoutez le 104e épisode que nous enregistrons le mardi 30 octobre 2018. Tout à l'heure avait lieu une nouvelle keynote d'Apple, alors pas de grosses surprises, à part peut-être des précisions sur le MacBook Air, mais des nouvelles que nous allons tout de même décortiquer ensemble. Et bien entendu, nous ne nous contenterons pas de faire une simple revue des annonces Apple, et nous parcourrons ensemble la revue de la presse tech de la semaine, notamment concoctée, un menu concocté notamment par Guillaume Poggiaspala, avec un ton assez fortement axé autour de la dystopie. Est-ce que cette rubrique parviendra à l'occasion d'Halloween à vous faire froid dans le dos? Nous le découvrirons ensemble. Et puis nous profiterons ensemble de toute une série de news en bref et les bonus comme toujours. Dans cet épisode, nous retrouvons le désormais officiel chroniqueur Apple sous la bannière de Tech Café, youtubeur évangéliste des usages de la tech pour votre plus grand plaisir. Et puis pour le nôtre, c'est Léo Duff. Salut Léo.
C'est vrai que tu m'invites souvent pour du Apple, j'ai aucune idée de pourquoi, mais écoute, avec plaisir, merci pour l'invitation, salut.
Je me demande pourquoi. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et puis, vous l'avez compris au programme que j'ai annoncé un peu plus haut, pas de surprise, l'incontournable, l'inénarrable, l'immuable Guillaume Poggiaspala est évidemment avec nous. Salut Guillaume.
Et oui, encore moi. Salut à tous.
Bon. Salut Guillaume. Vous n'avez pas éteint les lumières avec Tom la dernière fois. Hein. Vous avez mis le bazar dans le studio de Tech Café. Mais c'était mené d'une main de maître. Donc encore merci d'avoir suivi l'animation de Tech Café en mon absence, Guillaume. Et puis un petit coucou à Tom aussi qui était là avec toi. Vous le savez, les incontournables, c'est de soutenir Tech Café. On a besoin de vos soutiens, même si vous n'êtes pas obligé de le faire. L'émission reste disponible pour tous. Mais si jamais vous écoutez Tech Café depuis un moment, peut-être que ce serait intéressant de regarder la page Patreon de Tech Café. L'adresse, c'est patreon.com/techcafé, qui vous permet de contribuer pour chaque émission avec de toutes petites sommes pour nous soutenir, tout simplement, dans le travail qu'on fait autour de la préparation des émissions, de l'enregistrement, de la diffusion de Tech Café. Vous pouvez en tout cas réagir à l'émission et sur le sujet qu'on va aborder sur techcafé.fr dans les commentaires de l'épisode, de l'article qui accompagne la parution de l'épisode. Et puis vous pouvez même discuter entre vous, entre auditeurs et avec nous sur Telegram. Vous avez le lien là aussi dans les notes de l'émission. Sans autre forme de procès, on attaque puisque le programme est quand même chargé ce soir. Donc la keynote Apple a eu lieu qui a été annoncée il y a de ça quelques semaines. Donc c'était pas une keynote qu'on la sentait venir. Les rumeurs l'indiquaient et elle a été confirmée assez vite avec une foultitude de logos Apple déclinés. Je ne sais plus combien il y en avait en tout, une grande variété en tout cas. Du coup, pas de grosse surprise, j'allais dire, puisque l'ensemble des rumeurs, une fois de plus, avaient visé juste. Et puis, il y avait des prédicateurs de la tech qui avaient annoncé que de toute façon, il n'y aurait pas de nouveaux AirPods ou de AirPower en 2018. Et donc, ça s'est une nouvelle fois confirmé, bien entendu. Là où j'ai eu le plus d'infos que je n'avais pas avant la keynote, c'est notamment sur la sortie du MacBook Air et sur les détails de ce MacBook Air. Si on reprend un petit peu dans l'ordre, dans les grandes lignes, donc le MacBook Air est revu puisqu'il faisait un petit peu tâche dans la gamme. C'était un écran qui n'était pas Retina, il commençait à dater un petit peu. Il est revu, il intègre Touch ID, il prend moins de place, il est plus léger, il est plus rapide. Ce qui a fait peut-être l'objet du plus d'applaudissements lors de l'annonce, c'est un nouveau matériau en aluminium 100% recyclé qui constitue le corps du MacBook Air qui a été re-engineered at atomic level. Et là, gros applaudissement, mais magnifique. Donc, une gamme qui peut-être se clarifie, en tout cas qui est peut-être un peu plus cohérente sur les MacBooks, on va revoir ensemble, avec un tarif qui ne faiblit pas, à partir de $1199. Je ne sais plus exactement, je n'ai pas revu encore les prix en euros, mais là aussi, on va revenir ensemble dessus. Le Mac Mini qui fait l'objet d'une refonte. Alors, la refonte, elle est un petit peu esthétique, même si on retrouve le même design du Mac Mini auparavant, c'est-à-dire cette tour qui fait, ce petit boîtier qui fait office de tour d'ordinateur sur lequel vous branchez votre écran, votre clavier, votre souris, vos accessoires. Et le Mac Mini, donc, est revu un tout petit peu dans ses designs puisqu'il est juste un peu plus sombre, mais dans le fond, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et là, ils ont mis le paquet. Il y a des processeurs qui sont plus puissants, jusqu'à 64 Go de RAM, du SSD qui est intégré de base et un prix qui gonfle un petit peu aussi. Là aussi, on va revenir ensemble dessus. Gros morceau sur l'iPad Pro et c'était attendu. Le design avait là aussi leaké. On va qualifier le design d'un appareil bord à bord. Je trouve en tout cas pour ma part qu'il il ressemble un petit peu plus à une Surface, cet iPad Pro. Il ressemble un petit peu plus à une tablette Surface. On pourra en discuter ensemble tout à l'heure. TrueTone, ProMotion, les mêmes technologies qu'actuellement, mais revues effectivement avec plus de place sur l'écran. Le petit iPad Pro qui commence désormais à 11 pouces, pardon, et le grand modèle qui reste à 12,9 pouces. Donc quand même des grands écrans. Et bien sûr, intégration de Face ID et Exit, le Touch ID. Donc pour ceux qui souhaitaient encore lutter avec la fonctionnalité de reconnaissance à l'empreinte digitale, et ben vous voyez que l'orientation est assez nette en direction de Face ID. Alors oui, vous l'avez remarqué probablement, le MacBook Air intègre lui Touch ID, on va en reparler un petit peu ensemble. La puce, c'est du A12 Bionic, mais en version X, du 7 nanomètres. Il est plus grand que sur l'A12 des iPhones. 10 milliards de transistors, un GPU encore plus puissant. A priori, j'ai vu passer la slide et j'ai pas eu le temps de recreuser, mais a priori, il compare le GPU qui est encore plus puissant et en gros les technologies qui permettent de réaliser des graphismes du niveau d'une Xbox One S. J'en perds mon latin.
Exactement.
Un port USB-C à la place du Lightning. L'iPad qui intègre aussi un moteur neuronal qui peut effectuer 5000 milliards d'opérations par seconde. Rien que ça. L'USB-C donc qui peut charger l'iPhone. Intéressant. Et puis l'Apple Pencil qui est complètement revu. Qui d'une part s'attache sur le côté de l'iPad. Il est aimanté. Ça c'est cool. Mais en plus quand vous l'aimantez, il se recharge. Il s'appare encore plus facilement qu'avant. Et il a des boutons d'action qui permettent en gros d'interagir avec les applications et donc de faire varier, pourquoi pas, par exemple, les pinceaux et les outils que vous utilisez pour dessiner. J'ai tout livré dans un très gros paquet pour vous faire un résumé si vous n'aviez pas assisté à la conférence. Maintenant, on peut peut-être s'attarder dans les détails. Qu'est-ce qui t'a particulièrement peut-être marqué, Léo, et ce sur quoi on pourrait peut-être revenir ensemble. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette keynote?
Alors, j'aimerais juste revenir au fait que tu disais que certains prédicateurs de la tech avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de AirPods 2 en 2019, avant 2019. Je pense que ce sont des génies. Maintenant que ceci est dit, on pourrait revenir sur le MacBook Air, qui, moi, est le truc qui me marque le plus parce que je l'attendais, mais alors pas du tout. Ça faisait des années qu'il n'avait pas connu de vraies mises à jour. Et en fait, au-delà de ça, la raison pour laquelle je pensais qu'il allait jamais être mis à jour, c'est que je vois pas trop où il se situe dans la gamme. On avait déjà un MacBook Pro qui est pour les pros et on avait un MacBook qui était pour les moldus, pour les étudiants, on peut les appeler comme on veut, mais ils ont pour moi le même usage, qui n'est pas professionnel ou alors qui est bureautique. Mais du coup, je vois pas tellement la différence de cible entre le MacBook et le MacBook Air, qui du coup est mieux aujourd'hui que le MacBook, parce qu'il a un Touch ID, parce qu'il a un plus grand écran. Je sais pas s'il est plus fin, plus léger, mais il a tout en mieux. En fait, il commence avec un i5, je crois, alors que le MacBook commence avec un M3. Enfin voilà, c'est un MacBook en mieux pour 100€, il me semble, d'écart. Donc deux MacBooks à 100€ d'écart dans la gamme, je comprends pas ce choix-là.
Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y avait une confusion dans les appareils avec des MacBooks. On voyait quand même un petit peu la plus-value du vieux MacBook Air par rapport au vieux MacBook Air, parce qu'il y avait un écran Retina, il était quand même plus compact, etc. Mais du coup, c'est maintenant le MacBook qui fait office de vieux MacBook de la gamme.
C'est ça.
Et on ne sait plus trop, effectivement, comment situer les choses. Je trouve ça quand même un poil plus cohérent d'avoir le MacBook Air aujourd'hui que celui d'avant par rapport à la gamme. Mais effectivement, la différence de l'offre entre un MacBook et un MacBook Air n'est pas claire. C'est pas la première fois qu'on dit que les gammes nous paraissent pas forcément clairs sur les Mac. J'ai l'impression que ça s'arrange pas forcément avec cette annonce. Guillaume, ta perception de ce MacBook Air, justement, on va le faire produit par produit du coup.
Oui, moi le MacBook Air, je le trouve très très bien. De toute façon, globalement, toutes les machines qui ont été présentées sont de belles machines avec des specs qui sont très très attrayants. Tout ça, c'est pas mal. Par contre, effectivement, bon, dans le cas du MacBook Air, donc puisqu'on fait produit par produit, moi, ce que je comprends pas très bien, c'est que j'avais compris, je suis pas un utilisateur d'Apple, mais quand même, j'avais compris que le MacBook Air, c'était l'entrée de gamme, et que c'était quand même significativement moins cher que les MacBooks, qui étaient un petit peu plus sérieux, on va dire. Et là, du coup, il n'y a plus d'entrée de gamme, puisque le MacBook Air, si tu veux, se situe aux alentours des prix des MacBooks standards, qui du coup, comme le disait Léo, perdent leur spécificité. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre comme positionnement, je suis assez d'accord, oui.
Bah d'autant plus qu'il n'y a plus vraiment de raison d'appeler un MacBook Air aujourd'hui, ils sont tous fins, donc à l'époque ça avait du sens. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Apple n'a pas simplement upgrade le MacBook en disant voilà, c'est le nouveau MacBook, plutôt que de nous dire ah bah c'est le nouveau MacBook Air, ça fait des années, vous l'attendez. Je ne comprends vraiment pas ce choix, il est inexplicable pour moi.
Mais il y a un autre, il y a un autre truc qui me, qui me, enfin, que je trouve un petit peu étrange, c'est, bon, je vais pas, discuter des prix pour les prix, si tu veux, c'est cher, c'est pas cher, bon, chacun, chacun l'appréciera, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi il y a pratiquement plus de, d'entrée de gamme chez Apple du tout. Parce que, par exemple, prenez le Mac Mini. Le Mac Mini, c'était un petit ordinateur qui était tout petit, très sexy, et pas extrêmement cher, il me semble, à une époque. Or là, on commence à 900 euros avec 128 Go de SSD. Attends, 128 Go de SSD, sérieusement? Tu vois, sur un PC? Donc ça veut dire que globalement, tu vas prendre 256 ou 512 et que tu vas pas mettre moins de 1000 balles. Je veux dire, est-ce que c'est possible d'avoir une machine à moins de 1000 balles? J'ai pas l'impression, quoi. Où sont passées les entrées de gamme? C'est bizarre, quand même.
Il n'y en a plus, il n'y en aura plus, c'est fini.
Mais je veux dire,
c'est
pourquoi
fini les entrées de gamme.
Pourquoi
pas ça de technologie pour les pauvres.
Général, non
oui.
J'ai le sentiment, moi, du coup, que ça, ça enfonce une fois de plus le clou pour dire que bah, Apple, c'est aussi de plus en plus une marque de luxe. Enfin, moi, c'est vraiment le truc que je retiens d'annonce en annonce. C'est que l'argument de faire des trucs à bas prix reste à peu près vrai sur certains produits, mais pas parce que c'est une gamme qui continue à être pensée comme étant des produits accessibles, mais parce qu'on continue à produire les appareils, je pense aux iPhones évidemment, des années précédentes, parce que le vieillissement de ces iPhones n'est pas suffisant pour les écarter de la vente, et ils peuvent effectivement être des solutions pour de l'entrée de gamme. Pour le Mac, j'ai l'impression que là, c'est effectivement, le message est hyper clair, c'est qu'il n'y aura pas de Mac d'entrée de gamme parce que le Mac est un ordinateur haut de gamme par définition, c'est-à-dire que je pense qu'ils veulent associer la marque Apple à du haut de gamme. Je pense que c'était déjà probablement le cas hein, dans l'esprit de beaucoup, mais c'est pour moi un message très très fort qui est de dire quand on raisonne appareil iPhone, bah, vous avez les anciennes gammes qu'on continue à vous vendre, un peu comme les anciennes collections de certaines marques de mode hein, qui sont assez chères, mais on a des boutiques qui nous vendent des produits de la collection de l'an dernier à moins cher. Bah, c'est un peu la même logique pour Apple, mais par contre il n'y a plus de Mac pas cher, plus, avec plus de compromis sur les services et sur la puissance, mais, et
oui,
on n'a que des produits haut de gamme, quoi.
Oui, mais alors justement, tu vois, ce qui m'étonne quand tu dis ça, c'est que si on prend l'exemple du Mac Mini, le Mac Mini, il démarre avec un Core i3. Un Core i3, 8 Go de RAM, une carte graphique intégrée, 128 Go de SSD. C'est pas du haut de gamme. Ça vaut pas 900 euros. Enfin, je veux dire,
oui, c'est cher.
Tu vois, pour le... Bah, quand vraiment, pour ce qu'il y a dedans, bah, c'est quand même vraiment cher, quoi. Et du coup, je me pose la question, c'est vraiment une politique de dire on va rien moins 900, tu vois. Mais ce que je comprends
pas,
c'est quel est l'intérêt.
Par rapport à quel produit tu le compares exactement pour dire que c'est cher le Mac Mini? Parce que moi je vois pas tellement de concurrents en fait sur ce créneau-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement un PC, c'est quand même une tour qui est
taille,
très peu encombrante. Oui.
Oui, mais une tour très peu encombrante, il y en a d'autres, tu sais, c'est pas en plus.
À ce point-là?
Oh oui, mais je suis
certain. Je connais pas forcément les produits concurrents, mais
je pense que tu peux. De toute façon, si on c'est vrai que dans ma tête, je regarde plus les composants que le form factor, mais bon, même si on regarde que les composants, c'est clairement très très cher. Maintenant, si on regarde aussi le form factor, je suis à peu près persuadé que tu peux monter un PC qui soit comparable, on va dire, en encombrement à un Mac Mini, sans trop de... Tu vois, c'est pas non plus une prouesse d'ingénierie. Je veux dire, les MacBooks sont beaucoup plus impressionnants, je pense, au niveau ingénierie que les Mac Mini, qui sont des petits PC, certes très sexy, certes très bien finis, mais bon, c'est pas non plus, je veux dire, c'est des Core i3 de 8e génération, ça consomme pas énormément, faut pas non plus exagérer la performance, quoi. Donc du coup, je m'interroge un petit peu, j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté politique d'Apple de se positionner sur l'autre gamme, mais ce que je comprends pas, c'est si tout est plus cher parce qu'ils veulent se positionner sur l'autre gamme, est-ce qu'ils vont pas vendre moins?
Pour le coup, sur un produit comme le Mac Mini, c'est complètement possible parce que je le voyais, je comprends pas trop la cible non plus. Je le voyais vraiment pour des gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur, etc. Mon père, par exemple, il a un Mac Mini qu'il a branché sur la télé. Bon, bah voilà, du coup, ça lui fait un petit ordinateur, mais il ira jamais mettre ce prix en fait dans un Mac Mini. Donc, sur le Mac Mini, c'est possible. Sur les autres produits, je pense pas que ça cannibalise les ventes.
Bon, alors ce qu'on retient, donc, c'est effectivement un peu la gifle au niveau des prix, même si on n'est pas là pour donner les bons points ou les mauvais points. Après tout, on prend les infos comme elles viennent et telles qu'elles sont distribuées. On peut peut-être s'attarder un petit peu plus sur l'iPad Pro. Léo, qu'est-ce que tu penses de cet iPad Pro? Est-ce que c'est une chouette évolution? Est-ce que c'est vraiment la continuité? Est-ce que là, la gamme te paraît un peu plus lisible?
C'est complètement la continuité. Je pense que la gamme d'iPad, elle était déjà assez lisible. Je le trouve vraiment magnifique, mais j'ai hâte de le voir en vrai, parce que c'est vrai que c'est bord sur les côtés. C'est normal qu'il soit plus proéminent que sur un iPhone, parce que déjà, il faut le tenir, en fait, tout simplement, l'iPad, donc il faut qu'il soit assez gros. J'ai vraiment hâte de le voir en vrai pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, à l'image, je trouve qu'il est magnifique. Ça a l'air d'être un monstre de puissance. Le Pencil est plus intéressant que jamais, mais en même temps, il n'était pas spécialement intéressant avant. Maintenant, le fait qu'il puisse se coller directement à l'iPad, c'est pas une prouesse, mais c'est quand même un ajout cool pour se recharger directement en le collant. Donc, ouais, non, c'est très, 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 très bonne mise à jour. Ça me donne presque envie d'avoir un iPad, alors que je sais pertinemment qu'il me servira à rien, mais vraiment à rien, je l'utiliserai jamais, puisque soit je suis sur mon iPhone, soit je suis sur mon Mac, en fait, mais j'aurai jamais d'alternative. Mais il donne envie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il m'a giflé. Hein.
Ah bah il est diablement sexy, et je pense que la taille d'écran au départ de 12,9 pouces est quelque chose d'assez formidable. Il faut tenir un iPad au moins une fois de presque 13 pouces dans les mains pour se rendre compte à quel point c'est immersif et d'avoir vraiment la sensation de pouvoir plonger les mains et le stylo dans une surface pareille. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, s'il est encore moins encombrant et qu'il a encore plus de puissance, bon bah écoute, tout ça est pour le mieux. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est la comparaison des performances graphiques qui sont au niveau d'une Xbox One S. Ça m'a vraiment interpellé, cette comparaison, à la fois sur le fond et sur la forme. D'une part, sur le fond, parce que c'est pas neutre de comparer ça à une console dernière génération de salon, alors que il y a quand même pas les mêmes jeux, il y a pas les mêmes technologies. Enfin, c'est difficile de comparer par rapport aux performances d'une Xbox One S aujourd'hui. Et même en termes de communication, j'avais pas eu l'habitude de voir Apple déjà se comparer à des consoles de jeux de cette manière-là en termes de puissance, et surtout en citant aussi explicitement le produit. Est-ce que c'est une petite nouveauté, Léo, aussi, ou je me trompe?
Je pense qu'on peut dire que c'est une petite nouveauté. Après, ça a été appuyé avec la présentation de NBA 2K sur l'iPad Pro. La démo qu'on a eue était assez folle. C'était vraiment impressionnant en termes graphiques. Après, à voir après ce que ça donne au niveau du test, quels jeux seront disponibles, parce que c'est bien que graphiquement ce soit cool. Mais s'il n'y a que NBA 2K pendant 6 ans, bon bah, ça sert pas à grand chose. Mais ouais, j'ai été assez étonné aussi de ça. Après, c'est vraiment sur les graphismes, c'est pas une Xbox One S non plus, mais c'est intéressant qu'Apple commence à faire ça.
Guillaume, ça a du sens de comparer un iPad Pro à une Xbox One S sur les performances graphiques ?
Bon, oui, enfin, ça permet de montrer qu'il y a eu de gros progrès, parce que bon, la puce des iPad Pro, maintenant, elle est en 7 nanomètres, donc ça veut dire qu'elle a deux générations d'avance sur l'Xbox One S, il me semble. Ce qui fait que, du coup, bah, on peut avoir la même puissance pour une consommation qui est aujourd'hui quasi dérisoire, quoi, en comparaison. Pour le coup, on peut le comparer en termes de puissance brute, c'est-à-dire au gigaflop, quoi, globalement, au teraflop. Mais après, évidemment, le problème, si tu veux, c'est que des jeux Xbox One S, ça s'installe sur disque dur, ça prend plusieurs dizaines de gigas chaque jeu. Donc ça m'étonnerait qu'on ait quand même beaucoup de jeux AAA type console de salon sur un iPad Pro, parce que sinon, il faut un iPad Pro 1 Teraoctet, quoi, tu vois. Mais bon, c'est quand même assez fort. C'est même, limite, je trouve que c'est même... presque inutile. Enfin, je veux dire, tu vois, je pense pas que les gens qui utilisent iPad Pro vont vraiment avoir un usage pour une puissance graphique comme ça, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est pas une console de jeu, quoi. Je doute qu'il y ait des si tu veux, la plupart des jeux qui vont être utilisés sur l'iPad Pro, je pense pas qu'ils vraiment ils puissent utiliser la complète puissance de la puce. Cela dit, c'est toujours sympa.
La complète puissance, non, mais c'est vraiment de la démonstration, quoi. C'est histoire de dire, voilà,
oui.
On peut le faire. Terminé.
C'est ça,
c'est un
ça.
Appareil pro, ça a du sens de le faire.
Vous ne serez pas limité par les choix technologiques qui constituent l'appareil qu'on vous vend, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui n'est peut-être pas justement forcément le cas, typiquement, d'un Mac Mini, quoi. Bon, ça restera un petit peu l'inconnu de ce déroulé de cette présentation. Quand même un point marquant, moi je misais pas dessus du tout, il y a de ça encore quelques mois, mais oui, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'iPad Pro intègre de l'USB-C. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, le Lightning va disparaître de l'iPhone? Bah, ça me semble être quand même une tendance assez inévitable finalement. Léo, du coup, toi qui es fort en devinette Apple et de prochaine keynote, l'USB-C sur l'iPhone, c'est pour quand?
Alors, c'est complexe. Je ne m'attendais pas du tout à avoir de l'USB-C sur l'iPad, mais au final, ça a du sens pour deux raisons. Déjà, c'est un iPad, c'est pas un iPhone, et c'est un usage pro. Donc ça a complètement du sens, même si je ne m'y attendais pas. Mais j'attends quand même toujours pas d'USB-C sur l'iPhone pour deux raisons. Déjà, l'USB-C est plus large que le Lightning. Il me semble qu'il est un peu plus fragile que le Lightning, mais surtout parce que Apple mise de plus en plus sur la recharge sans fil. On l'a vu avec le AirPower qui sortira peut-être en mars 2019, on verra. Je pense pas qu'Apple mette de l'USB-C et puis qu'ils disent aussi bon, on va mettre un chargeur rapide avec, etc. Parce que je pense que s'ils passent sur USB-C sur l'iPhone, ils vont aussi mettre un chargeur rapide et ils vont pas le faire, à mon avis, parce que on va pas commencer à habituer les gens à de la charge rapide si derrière on leur propose un chargeur sans fil qui charge beaucoup moins vite. Et ils vont pas changer, à mon avis, de normes. Ils vont pas aller du Lightning à l'USB-C si c'est pour après dire bon bah en fait on dégage tous les ports et c'est sans fil. Je pense qu'ils vont rester sur du Lightning jusqu'à ce que ce soit totalement sans fil. Je me trompe peut-être, après plus on fait de pronostics, hein, plus il y a des marges d'erreur, mais à mon avis il n'y aura pas d'USB-C sur l'iPhone.
Moi je t'avoue que je suis un fervent aussi, vous le savez, hein, un grand amateur d'Apple et un grand passionné des produits, mais là, pour le coup, en regardant avec du recul, à partir du moment où là ça y est, on a un iPad qui passe en USB-C, je ne comprends même pas la logique qu'on puisse continuer à avoir un port Lightning sur l'iPhone finalement, et je suis même étonné si jamais dès l'an prochain, il n'y a pas des mouvements là-dessus, pourtant les rumeurs semblent confirmer qu'on continuerait sur du Lightning, et je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être anecdotique comme changement sur l'iPhone. Autant sur l'iPad, je pense que c'est moins engageant, mais sur l'iPhone, ce serait évidemment bien différent. Mais pour autant, j'avoue que d'un point de vue purement technique et d'un point de vue gamme de produits, aujourd'hui, si tu recharges un produit... il va falloir, une fois de plus, multiplier les connectiques. Déjà, aujourd'hui, on n'a pas tous de l'USB-C. Il faut commencer à jouer un petit peu avec les dongles si jamais on a une période de transition. Il va falloir le câble USB-C et le câble Lightning. Moi, quand je partais en week-end, j'emportais un chargeur qui chargeait mon iPad et mon iPhone, ça ne posait aucun problème. Là, il va falloir que j'emmène aussi un chargeur USB-C et si je n'ai pas une gamme de produits qui est cohérente là-dessus, ça va commencer à me poser des vraies questions, moi. Guillaume, ta perception de cet USB-C aussi, est-ce que tu trouverais ça logique que... Tiens, pareil, plie-toi au petit jeu des devinettes, finalement. L'USB-C sur les iPhones, c'est pour quand pour toi?
Alors c'est vrai que l'USB-C sur l'iPad c'est très bien, évidemment, hein, puisque voilà, ils adoptent un standard, bon, ça permet de le rendre compatible avec potentiellement et même déjà d'ores et déjà plus de périphériques, comme les écrans. Ils ont donné le principe des écrans, effectivement l'exemple des écrans, ce qui est quand même assez sympa. Après, bon, pour être tout à fait honnête, oui, je pense qu'ils vont passer à l'USB-C, parce que ça n'a pas vraiment de sens d'avoir des connecteurs différents, j'ai l'impression, pour différents machins. Ils ont de l'USB-C sur leurs ordinateurs, voilà, ils ont le portable, ils ont de l'USB-C sur l'iPad, je ne vois pas pourquoi ils ne mettraient pas de l'USB-C sur les iPhones, un petit peu comme tous les autres téléphones modernes, j'ai l'impression. Donc, si tu veux, pour moi, ça me paraît être, d'une part, quelque chose de très positif, puisque voilà, on adopte un nouveau standard. D'autre part, peut-être aussi un petit désaveu du Lightning et peut-être aussi un peu de temps perdu, parce que comme tu disais, ça va faire pas mal de dongles, c'est ce qui est un petit peu emmerdant, je trouve. D'ailleurs, au passage, il faudra aussi un dongle si vous avez un casque audio filaire, puisqu'il n'y a plus de port jack sur l'iPad Pro. Forcément.
Bon, ça pour le coup, moi, c'est vraiment pas un truc qui me dérange, tant je me suis approprié les casques sans fil, et je pense vraiment que quand on fait la démarche,
ça tombe des oreilles.
Ça ne tombe jamais.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre le jour d'Halloween?
On est là pour,
me faire peur, c'est ça?
Non, je suis un fervent défenseur du sans fil pour les casques, et l'AirPods est vraiment un produit qui séduit, je pense, tous ceux qui l'adoptent ou qui l'essayent en tout cas. Donc ça, moi, je suis assez convaincu. Par contre, effectivement, sur cet USB-C, moi, je reste vraiment bloqué là désormais. Et on va se jouer. Hein, du coup, on donne rendez-vous en septembre 2019. Si jamais il y a des nouveaux AirPods, un AirPower et du Lightning, Léo aura tout gagné.
Alors, je veux pas te contredire, mais le AirPower et les nouveaux AirPods arriveront en mars, donc on sera un petit peu. On sera un petit peu en retard. Mais j'aimerais juste...
Ouais, en septembre, on pourra faire le bilan complet, je voulais
dire. Ok, d'accord, on se revoit en septembre, alors. Moi, j'aimerais juste revenir. Par contre, je veux absolument, si Apple veut bien mettre de l'USB-C sur l'iPhone, je veux, hein, parce que l'USB-C, c'est la vie. C'est simplement un pronostic. Je ne pense pas qu'on aura, en tout cas pas tout de suite, de l'USB-C sur l'iPhone. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment étonné, c'est que sur le Mac Mini, le nouveau, il y a deux ports USB-A.
Hey.
Et alors là, je... Ok. Ils en ont même pas parlé, je ne comprends pas pourquoi, c'est un peu n'importe quoi, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez la raison, mais...
Bah moi, j'avais pas vu, hein, j'avais pas relevé. C'est un argument de plus qui montre que peut-être le Mac Mini a dû être designé par une équipe qui a été punie, en fait, je pense, l'an dernier. C'est une équipe qui a été mise au placard et on leur dit, vous développerez le Mac Mini. Évidemment, pas le design, hein, ça leur a été livré. Mais par contre, on leur a demandé de faire des choix et en fait, on se fout des choix technologiques. Ah,
j'ai la seule vraiment explication. Pas compris, quoi. Il y a 4 Thunderbolt 3 et il y a 2 ports USB-A qui sont là.
Et sur le MacBook Air, tu peux peut-être nous rappeler, si tu les as en tête, les ports qui sont
disponibles. Sur le MacBook Air, il y a 2 ports Thunderbolt 3, donc en USB-C.
Donc ça, c'est un choix qui satisfera le plus grand nombre, je pense.
Je vais poser une question idiote, peut-être, mais Apple fait encore des grosses machines, des stations de travail comme avant ou pas ?
Alors, tu veux dire comme le Mac Pro ?
Ouais.
Non. Ils ont fait l'iMac Pro. Le Mac Pro, il a quand même quelques années maintenant.
Ouais, mais ils n'en font plus du tout.
Ils sont beaucoup à l'attendre. Ils sont énormément à l'attendre. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Ou peut-être une ou deux dernières, mais à mon avis, ça a du sens de plus en plus de soit prendre un iMac Pro, soit de faire comme dans ma configuration, c'est-à-dire d'avoir un MacBook Pro que tu branches en un câble en USB-C à ton écran et tu as ta station de travail, en fait.
Oui, c'est vrai, mais bon,
continue à commercialiser le Mac Pro, ça suffit pour Batman, faire du... hein, poubelle de Batman.
Oui, pardon. Oui, le poubelle de Batman. Non, mais quand tu fais du montage vidéo un peu lourd, tout ça, je sais pas. Ça me paraît, tu vois, il y a pas mal de pros qui étaient sur Mac aussi à l'époque.
Oui, non, complètement. Il y en a toujours. Je pense qu'ils sont sur l'iMac Pro en fait. Mais par contre, je te cache pas qu'il y a beaucoup de pros qui attendent un nouveau Mac Pro. Ça c'est certain.
Ok.
Ouais, pour les pros aujourd'hui, il y a l'iPad Pro. Hein, c'est pour les pros, c'est marqué dessus. Mais il y a surtout le Mac Pro poubelle de Batman. Il y a l'iMac Pro. Ouais,
Le
MacBook Pro. Et oui,
il est dépassé depuis un moment, le Mac Pro.
Mais justement, toi qui tu connais un petit peu ce que c'est que de réaliser des vidéos, Léo, du coup, toi, aujourd'hui, ta solution MacBook Pro avec un écran, c'est une solution qui est parfaitement viable. Tu ne te sens pas limité dans ta production de vidéos, tu n'as pas l'impression d'attendre des heures.
Je suis pas du tout un bon exemple, car je tourne en 1080p et j'ai des montages qui ne sont vraiment pas énormes. Donc moi, un MacBook Pro, ça me suffit amplement. Je pense même que je pourrais faire mes montages sur un MacBook 12 pouces. J'aurais un peu plus de mal, mais je pense que je pourrais le faire sans trop de problèmes. Donc je ne suis pas un bon exemple.
Voilà, des aspects,
désolé,
des coulisses, c'est
pas t'avoir d'infos.
Et un dernier petit mot quand même, peut-être pour s'attarder sur cette Apple Pencil. La grosse nouveauté, c'est qu'on peut le graver, hein, comme vous le commandez sur l'Apple Store, vous pouvez le graver. Maintenant, vous pouvez mettre votre prénom dessus.
Vous pouvez mettre Léo Duff avait raison dessus.
Ouais, tiens, je suis pas sûr que ça tienne en termes de nombre de caractères, vérifiez, faites le test pour nous, mais qui est vraiment le truc hyper malin, et c'est d'ailleurs peut-être un bel argument pour passer au nouvel iPad Pro si vous utilisez la fonctionnalité Pencil avec l'iPad, qui était encensé auparavant à cet Apple Pencil et qui désormais n'a plus cette bizarrerie, vous savez, hein, ça a été longtemps moqué, et pour cause, le fait de déboucher le Pencil, de le brancher sur le port Lightning de l'iPad Pro, ça donnait une situation quand on recharge le Pencil qui était assez improbable. Là aussi, passant à l'USB-C, il aurait fallu un Apple Pencil USB-C. Bon, ils ont trouvé, je trouve, une super solution, un peu dans la logique de la magie de ces fameux AirPods là dont on parle. On ouvre le boîtier, on appuie sur le bouton, boum, ils sont appairés et on les met dans les oreilles et ça roule. J'ai l'impression que c'est la même philosophie qui accompagne ce petit accessoire, qui est accessoirement très joli, qui est un peu plus plat, et donc je pense que pour la prise en main, pour les dessinateurs, ça peut être un petit peu plus confortable, mais surtout qu'il y a ce petit bouton d'interaction. Alors là aussi, ça fait partie des choses que j'ai pas eu le temps de creuser avant l'émission. Est-ce que peut-être, Léo, tu peux nous redétailler ce qu'ils ont promis qu'on pourrait faire avec ce nouveau Pencil, ce Pencil 2, qui n'est pas rétro-compatible, hein, au passage?
Non, pas du tout. Et donc, en fait, il y a plusieurs petites nouveautés. Déjà, il y a la charge sans fil, donc il suffit de le plug sur le côté de l'iPad Pro pour qu'il soit en charge, ce qui est quand même hyper important, parce qu'avoir à charger, il n'y a rien de pire qu'avoir à charger un stylet, et c'est l'expérience aussi qu'on a avec les AirPods, comme tu le dis, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont constamment chargés. De temps en temps, voilà, dans la semaine, on va les mettre à charger, ça va durer 30 minutes, et puis après, ils sont chargés pour la semaine, mais on a constamment l'impression qu'il n'y a pas de batterie dans ces petits machins, en fait. Donc là, ce sera exactement pareil, ce sera même mieux, puisqu'ils seront constamment en charge sur l'iPad Pro, donc ça, c'est hyper important. Il y a une autre petite nouveauté, c'est que il y a je crois un côté ou peut-être deux, je sais plus, qui n'est pas arrondi, qui est plat, donc ça donne un meilleur maintien et en fait on a plus l'impression de tenir un crayon. Et dernière nouveauté, beaucoup de gens regrettaient le fait que, contrairement à d'autres stylets, on pouvait pas par exemple retourner le stylet pour par exemple prendre la gomme au lieu du crayon. Il y a une petite nouveauté qui est
la surface.
Voilà, complètement. Il y a une petite nouveauté qui fait que quand on fait un double tap sur le stylet, ça change d'outil, donc on peut passer du pinceau au stylo, du stylo à la gomme, etc.
Je pense que c'est vraiment quelque chose que pouvaient attendre les dessinateurs. Ils vont faire un carton plein auprès de ces métiers-là qui étaient déjà conquis, hein, je crois, par le Pencil et l'iPad Pro. Un dernier mot, peut-être, Guillaume, soit sur l'Apple Pencil ou sur la keynote au global ou pas du tout.
Non, bah écoute, je pense qu'on a tout dit, hein, l'Apple Pencil, moi c'est vrai que je ne suis pas utilisateur, mais je reconnais qu'il a l'air très sympa et que cette histoire de recharge sans fil, c'est très très pratique. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que ça a été dit, est-ce que c'est un système de supercapaciteur comme sur la Galaxy, ou est-ce que c'est une batterie normale, je ne sais pas, il y a des infos là-dessus.
Je pense que c'est une batterie normale, mais je n'ai pas l'info, ouais. Je t'avoue.
Okay.
It just works. Il faudra voir. Exactement, le démontage par iFixit.
C'est magique.
Très bien, Léo, un mot de la fin ou est-ce qu'on a tout dit?
Un mot de la fin, non, je pense qu'on a été assez complet et efficace, il n'y a rien à rajouter.
Parfait, donc voilà, je pense que vous aurez retenu, hein, en conclusion, les nouveaux produits sont tous super intéressants, mais attention au prix et notamment attention à la proposition de valeur du Mac Mini. On enchaîne avec la rubrique qui fait peur, ou peut-être pas, on va voir, hein, une rubrique sous l'accent de la dystopie. Guillaume, tu nous as sélectionné plein de news dans ta veille éditoriale dans la tech là, de cette semaine, qui nous dessine un portrait du monde sur lequel on va s'attarder un petit peu. La liaison est toute trouvée, à croire que c'est fait exprès. Tu voulais revenir sur le passage de Tim Cook en Europe et qui a notamment tenu une conférence, qui a pu s'exprimer publiquement et qui avait des mots assez durs vis-à-vis de l'industrie technologique. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ?
Oui, c'est vrai qu'il a prononcé un discours à Bruxelles au Parlement européen qui a eu un certain retentissement, on l'a vu un petit peu relayé partout. Et c'est vrai que bon, il reste globalement optimiste, hein, vis-à-vis de la tech, hein, qui reste le moteur des plus grandes avancées de l'humanité, un peu comme il dit. Mais il a aussi émis des critiques significatives à l'encontre de la Silicon Valley, et surtout, sans nommer personne, des entreprises indélicates avec les données de leurs utilisateurs, ou bien avec celles qui laissent proliférer les rhétoriques politiques populistes et mortifères, hein, qui menacent un peu l'équilibre de la société en ce moment. Et donc, il a évoqué un complexe data industriel, faute de meilleure traduction, donc référence au complexe militaro-industriel, hein, qui a été décrié dans les années 60, et du coup, il met en garde contre les sociétés qui pourraient vous connaître, en fait, beaucoup trop précisément pour ton propre bien. Et globalement, il a salué sans équivoque le RGPD, hein, déclarant que la vie privée est un droit fondamental de l'être humain. Et il appelle les États-Unis à mettre en place une régulation similaire. Alors c'est quand même un gros pavé qui a incité aussi les autres boîtes, Google et Facebook en tête, à affirmer les mêmes sentiments. On ne sait pas trop quels actes ces bons sentiments vont provoquer, ça reste assez flou. Hein. Mais bon, voilà. Alors un RGPD américain, c'est sûr qu'il ne faudra pas l'attendre au niveau fédéral, mais écoute, on verra bien si état par état peut-être.
Il ne s'est pas exprimé sur le bien fondé de la politique fiscale européenne, hein, au passage, si je veux être le troll complet. Léo, tu as suivi un petit peu cette intervention de Tim Cook et qu'est-ce que tu retiens d'ailleurs du ton que ça donne de la part de ce dirigeant de cette boîte? Ça enfonce encore une fois des positions qui avaient déjà été prises, mais...
J'ai pas du tout suivi, mais je trouve que c'est un homme très bien.
Il est bien sous tout rapport.
Ou je ne suis pas certain. Non, ça va dans la continuité de ce qu'il fait avec Apple. Apple parle de plus en plus de confidentialité, de gestion de données, etc. Donc on peut prendre ça comme vraiment de la bienveillance ou alors de la publicité. Vous faites exactement comme vous voulez. Ça peut très bien être les deux. Non, ça m'étonne pas. C'est bien qu'il monte un peu au credo. C'est bien, Tim. Gueule un petit
Go
coup.
Team. C'est les aspects positifs de cette news, mais finalement, là où on peut s'attarder deux secondes, c'est quand même de se rendre compte que on trouve ça positif de voir quelqu'un qui défend des positions de ce type dans l'industrie tech, notamment américaine, et que ça fait un peu figure d'exception. Et c'est justement là aussi où on peut se faire un petit peu peur, c'est de se rendre compte que ça devient une exception et qu'on se satisfait de voir qu'une personne comme Tim Cook a ce type de position, notamment de la part d'Apple, dans l'industrie de la tech. Et que c'est pas forcément quelque chose qui est largement partagé. On en parle régulièrement dans Tech Café. Alors il y a d'autres news évidemment qui tournent autour de ce portrait du monde de la tech qui font un peu froid dans le dos. On continue avec notamment des échos avec ce qui s'est passé au Brésil avec l'élection de personnalités et décidément illustrant un populisme montant dans pas mal de pays. Là aussi, de quoi il s'agit exactement, Guillaume ?
Oui, vous avez vu, le miracle n'a pas eu lieu, donc Jair Bolsonaro a été élu, et même confortablement d'ailleurs, c'est comme le prévoyait Tom dans l'épisode précédent. Donc voilà, Tom, tu avais raison.
Bravo, Tom.
Malheureusement.
Les prévisions de Léo s'avèrent vraies sur les AirPods et sur les AirPower, et celles de Tom sur les politiques.
Sur la politique brésilienne. Ouais, ouais. Et bon, je vais être honnête avec vous, hein, moi, ça m'a pas mal déprimé. Parce que après Trump, après le Brexit, après Duterte, après Maudit, même en Inde, puis bon, tout ce qu'on. Autour de nous en Europe aussi, il y a quand même des exemples pas jolis, jolis. Ben, c'est fini, quoi, tu vois, on n'est plus dans les exceptions, quoi. C'est comme si c'était devenu une règle. Alors, c'est vrai que. Cette montée là, des nationalismes, des populismes et tout, c'est un problème qui est d'abord politique et économique, hein, au premier chef, certainement. Mais bon, dans tous les cas, les réseaux sociaux, les grandes plateformes, quoi, ont quand même largement aidé les populismes, non seulement à devenir mainstream, mais carrément à accéder au pouvoir. Là, vraiment, on l'a vu, quoi. Et comme Tim Cook y faisait allusion, hein, c'est la puissance colossale des réseaux qui est devenue une partie du problème. Et elle bénéficie d'ailleurs presque toujours bien plus à ceux qui s'embarrassent pas trop avec les faits et qui savent comment faire du trafic et du clic, quoi, racontant un petit peu ce que les gens veulent entendre. Alors pour Bolzo, ça a été WhatsApp. Mais YouTube aussi peut être d'une efficacité effrayante. Il y a le MBL, qui est le Movimento Brasil Libre, qui est une sorte de... n'est-ce pas qui est une sorte... Donc c'est une sorte de Tea Party, mais constitué de YouTubeurs. Alors, ils ont réussi à faire élire Kim Kataguri, qui a 22 ans, et il a été élu au Congrès sur la base de sa popularité YouTube. Alors, en soi, parler de politique sur YouTube, ça pose pas forcément de problème, hein, sauf quand on le fait à la manière de Breitbart News ou du Tea Party américain. Puisqu'ils ont, de leur propre aveu d'ailleurs, méticuleusement étudié les méthodes de ces deux-là là, pour faire encore mieux. Parce que Kim était lycéen quand il a commencé à poster, et il a dit il connaissait rien à rien. Donc il a juste googlé le sujet, il a posté des vidéos, et petit à petit, c'est devenu viral, à grands coups de mèmes et de trolls. Et puis après, il a commencé à sélectionner les infos des médias traditionnels et à les résumer en deux phrases, tu vois, en veillant bien à trouver un truc rigolo pour faire, voilà, pour faire marrer les spectateurs et les inciter à partager. Et à ça, ils sont très très forts. Ils surfent sur le succès de Bolsonaro en reprenant ses thèmes, parce qu'il a le vent en poupe, hein, évidemment. Et bon, eux-mêmes, ils ont pris un plutôt flou à base de libertarisme, de libéralisme et surtout d'opportunisme, je suppose. Enfin, de toute façon, c'est pas vraiment de la politique, en fait, hein, puisque c'est la complexité... La complexité des problèmes, les analyses sérieuses, bah c'est pas ça qui va t'assurer la première page de YouTube. Alors que MBL la truste régulièrement, tu vois, le problème c'est que... Le problème évidemment c'est pas qu'un jeune gars parle de politique sur YouTube et se fasse élire par les gens qui sont d'accord avec lui, tu vois. Le problème c'est que il fait pas de la politique en fait, il fait de la communication pure. Comme trop de gens ces dernières années.
Et voire c'est peut-être...
Ouais, mais c'est de la com en fait. C'est de la com pure, il y a rien d'autre derrière, tu vois. Et c'est peut-être aussi parce que YouTube et les autres, hein, Facebook, tout ça, c'est peut-être pas fait pour ça. Tu utiliserais Tinder pour une élection ? Ben non, tu l'utiliserais pour une érection, peut-être, d'accord. Mais pas pour une élection.
T'avais tellement bien préparé, du coup, bravo.
N'est-ce pas ? Mais Tinder, tu vois, c'est pas fait pour les relations durables. Et c'est pareil, YouTube, ça récompense pas forcément le sérieux, la fiabilité des analyses étayées, tu vois. Non, c'est plus facile avec des vidéos courtes, choc et mort, de faire la une. Le problème, c'est que tout dans la vie peut pas se résumer par des vidéos chocs de 3 minutes, quoi. Et bon, voilà, c'est un truc qui est un petit peu récurrent aujourd'hui et qui me fait un petit peu peur.
Bon, on avait parlé déjà des usages de YouTube, alors qu'on peut vite critiquer, mais on avait notamment abordé le fait qu'il y avait des étudiants qui se référaient bien plus à YouTube qu'à leur manuel scolaire. Et pour cause, il y a d'excellents contenus sur YouTube, et c'était Pierre-Olivier Diedmann qui soulignait ça, qui disait à quel point il y avait des contenus pédagogiques sur YouTube qui étaient bien plus intéressants et bien mieux faits qu'une palanquée de manuels scolaires qui sont parfois pas très très bien pensés et qui sont prévus juste pour être vendus et pas forcément dans un souci pédagogique, quoi. Léo, ça t'émeut particulièrement de par ton activité sur YouTube. On rappelle que t'as une chaîne YouTube, hein, uh-huh. sur laquelle tu diffuses des contenus. D'ailleurs, pas que Apple. J'aime bien le rappeler.
De moins en moins, même.
C'est évidemment un fer de lance, mais c'est de moins en moins Apple. C'est peut-être plus usage, j'allais dire, que Apple. Ça te parle justement les usages, j'allais qualifier de détournés, de YouTube comme ça ?
Ben, ça me parle complètement. Moi, ça fait des années que je me bats un peu avec les gens, notamment sur Twitter, pour leur expliquer que oui, nous sommes des influenceurs. Le problème du terme influenceur, c'est qu'il a été trop utilisé et on qualifie un peu tous les créateurs d'influenceurs, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que influenceur, c'est pas quelque chose pour se la péter. Je veux dire, quelqu'un qui influence ses potes parce qu'il fume, c'est de l'influence. Et pourtant, c'est pas forcément bien. Influenceur, c'est pas amélioratif, c'est pas péjoratif, c'est juste un terme qui définit que vous avez de l'influence sur votre entourage. Bah, pour le coup, quand on est youtubeur, quand on est blogueur, quand on est twittos, tout ce que vous voulez, on a de l'influence sur beaucoup de gens. Donc à ce moment-là, on peut se caractériser comme influenceur. C'est pas une qualité, c'est une responsabilité que d'être influenceur. Et j'ai parlé parlé avec beaucoup de gens qui font du contenu sur Internet, que les gens les écoutent. Je voyais par exemple une blogueuse mode qui, quand elle s'est fait une nouvelle coiffure, bon, bah, y a plein de filles derrière qui vont faire la même coiffure en montrant voilà, sa tête, ah, bah, je veux exactement la même chose. Qui, quand elle porte des fringues, pareil, bah, les gens achètent les mêmes fringues, etc. Mais qui dit non, je suis pas une influenceuse. C'est un peu quand même la définition de l'influence, mais c'est juste que voilà, quand quelqu'un dit je suis pas influenceur, bah, ça montre qu'il est modeste. Pas du tout, l'influence c'est vraiment pas une qualité, l'influence c'est une responsabilité, et je pense que tout le monde devrait la prendre en compte. On est un peu obligé en fait de le faire, et moi j'essaie de pas faire d'erreur quand je fais une vidéo parce que ça peut être grave. Alors heureusement c'est pas sur la politique, mais même dans la tech, quand je dis quelque chose, il y a plein de gens qui m'écoutent pas, mais il y a aussi plein de gens qui m'écoutent, donc c'est une vraie responsabilité, il faut pas la prendre à la légère.
Mais même à des toutes petites échelles, hein. Moi je me rappelle avoir discuté avec des collègues podcasteurs qui avaient lancé des contenus voilà, qui n'avaient peut-être pas forcément des audiences constituées de dizaines de milliers d'auditeurs, mais qui touchaient quand même de manière très qualifiée un nombre de personnes qui étaient très captives. Et j'entendais je les appelle des copains, hein, qui diffusaient des contenus sur des recommandations sur la façon de se nourrir, sur des régimes, sur des diètes à mettre en œuvre. Et il faut qu'on garde en tête le fait, je pense, dès qu'on fait du contenu sur Internet, même si c'est pour quelques dizaines de personnes, c'est pas une histoire de quantité, c'est qu'il y a une forme de responsabilité, je pense, dans le contenu qu'on doit diffuser. Alors bon, là on est sur des principes sur lesquels on considère que tout le monde devrait être responsable. Je pense que les usages que tu décris, Guillaume, dans cette news sont un petit peu éloignés ou sont des travers très exacerbés de ces outils-là, mais c'est important de le garder en tête. Est-ce que justement, dernière question Léo, là-dessus spécifiquement, peut-être sur YouTube, est-ce que de par ce que tu fais toi et de par les personnes qui font des choses comme toi sur YouTube, tu sais s'il y a des accompagnements de la part de Google? Je pense vraisemblablement que non, mais je préfère poser la question. Est-ce que Google, quand il voit que quelqu'un prend de la place sur YouTube, je sais qu'il y a des programmes dans lesquels ils peuvent conseiller les créateurs de contenu en vidéo, etc. Est-ce que tu sais s'il y a des guidelines qui sont donnés sur justement la responsabilité qu'on commence à avoir quand on a une grosse audience sur YouTube ou pas du tout?
Alors, je me suis pas intéressé plus que ça aux cours de YouTube, j'ai regardé un petit peu, mais c'est probable parce qu'il y a de plus en plus de cours sur YouTube, et il y en a même qui préviennent par exemple du burn-out, ce genre de choses. Donc il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de cours pour accompagner les YouTubeurs, donc c'est possible. Je peux pas te le garantir, mais c'est possible.
Bon, si vous avez des billes là-dessus, dites-le nous. Moi, ça m'intéresserait de savoir quels accompagnements sont faits auprès des créateurs de contenu, notamment sur YouTube. Alors, on enchaîne avec quelque chose qui, là aussi, nous montre à quel point les temps changent, comme on dit, notamment dans l'univers de la tech. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait des outils de type, justement, tablette, de type ordinateur, dans le cadre de l'éducation. Et assez régulièrement, on ramenait comme argument pour doter tous les étudiants d'un pays de ces outils-là, de dire qu'il y avait un coût et que du coup on pourrait créer une fracture entre ceux qui pourraient s'équiper de produits tech qui seraient performants, voire de produits tech tout court, et de faire une fracture avec des personnes qui seraient plus dans un environnement plus pauvre et qui pourraient pas s'équiper de ces outils tech. Et il s'avère que là, sur la base de la news là, que tu vas nous relayer, Guillaume, en fait, l'équation est plus si simple dans ce sens-là, voire même, elle serait presque à l'inverse, ce serait de dire que la technologie serait peut-être synonyme d'une mauvaise éducation ou d'un mauvais moyen d'accéder à l'éducation, Guillaume ?
C'est vrai qu'il y a un curieux revirement de situation qui est en train de s'opérer en ce moment, et en plus il part de là où tout commence, hein, puisqu'il part de la Silicon Valley. C'est pas la première fois qu'on parle des cadres des grandes boîtes comme Facebook, Apple ou Google, hein, qui limitent très strictement le temps d'écran de leurs enfants. Donc on avait parlé de Tim Cook par exemple, qui faisait gaffe à son neveu, ou voire carrément de Steve Jobs, hein, qui interdisait ses enfants à l'accès à l'iPad, il me semble bien. Et là, par exemple, il y a aussi un ex-rédacteur chez Wired, qui est donc bien placé pour connaître le sujet, qui considère les écrans comme des drogues dures, et qui interdit les iPads, qui interdit les smartphones hors vacances d'été, qui interdit les réseaux sociaux avant 13 ans, et toute autre forme d'écran dans les chambres. Alors, il y a même un collectif de 200 psychologues qui a fait une pétition pour condamner formellement le travail de leurs propres confrères, en fait, hein, qui officient dans les grosses boîtes pour rendre les applis et les sites toujours plus addictifs. Et bon, même si tout le monde n'est pas d'accord, les parents de la Silicon Valley font presque consensus pour limiter le plus possible l'accès aux technologies qu'ils participent à créer, et donc qu'ils créent manifestement pour la plèbe, hein, parce qu'effectivement, le plus surprenant, c'est que la fracture numérique, comme tu disais, c'est peut-être pas celle qu'on croit, si on pensait, comme tu disais, hein, les plus défavorisés n'ont pas accès au numérique et que ça sera un problème. Mais ce qui se profile, c'est que en fait, les classes défavorisées passent significativement plus de temps devant les écrans que les classes aisées. 8h07 contre 5h42 pour les plus aisés. On voit aussi que les enfants afro-américains et hispaniques sont beaucoup plus exposés que les enfants blancs. Les écoles publiques, qui deviennent de plus en plus numériques, avec des iPads à gogo ou même des classes de maternelle totalement digitales. Alors qu'à l'inverse, les écoles privées, et en particulier les plus chères, elles font la chasse aux écrans. Et la fracture numérique dit ce serait donc que les enfants les moins favorisés seraient élevés par des écrans, quand les autres auraient le privilège d'avoir, je sais pas, un contact humain et des manipulations physiques. Et pour continuer cette superbe dystopie, on parlait de la prolifération des fake news, et il y a une autre tendance qui pourrait aussi être une segmentation sur la qualité de l'information, et même jusqu'à la qualité de l'entertainment, puisque les plus riches pourraient se payer des accès à des journaux de qualité, à des chaînes payantes, alors que les autres, ils vont devoir se contenter des infos peu fiables, non vérifiées, qui sont un petit peu noyées dans la propagande et les pubs, et une tendance qu'on constate déjà dans une étude anglaise assez récente. Donc il y aura une fracture numérique, oui, mais ce sera peut-être la fracture de l'information. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il y a des débuts de piste pour nous sauver peut-être, mais le tableau est assez sombre pour le moment.
Le tableau est assez sombre. Je ne sais pas si c'est un début de piste, hein, c'était plus ironique qu'autre chose, mais je mettais en regard effectivement un tweet de l'ami Kim.com, hein, qui est derrière notamment Mega Upload à l'époque, et qui est assez coutumier du fait d'annonces de plateformes qui vont révolutionner l'avenir de la tech, et qui a diffusé ce tweet, là je l'ai vu ce matin, le nouveau... Alors en fait, il est en train de bosser sur un nouveau réseau social. Oui monsieur, il bosse sur un nouveau site, donc qui sera un réseau social, et celui donc qu'il est en train de préparer sera totalement indépendant des plateformes d'hébergement, des réseaux de publicité. Il est décentralisé et il est, je cite, par le peuple et pour le peuple. Il y aura des modérateurs qui seront volontaires, qui pourront travailler tous main dans la main pour le rendre propre, en gros. Et par contre, il sera totalement libre de parole. Alors, j'ai quand même du mal, quand je mets toutes les données de l'équation, à voir quelque chose de cohérent et de possible. J'ai quand même beaucoup de mal à concevoir quelque chose qui soit totalement basé sur la liberté de parole, qui soit complètement libéré de tous ces éléments négatifs qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même un truc sur lequel il y a un exemple, en fait, qui pourrait cocher toutes ces cases, tous ces critères. Finalement, c'est Wikipédia. À partir du moment où aujourd'hui on a réussi à mettre en œuvre une encyclopédie comme Wikipédia, qui fonctionne, qui est... bon, certes pas vraiment décentralisé, mais qui en tout cas est alimenté par les gens, qui est modéré par les gens, et où il y a finalement, grosso modo, une liberté de parole, au moins relative, mais quand même réelle, je pense. Finalement, peut-être que Kim.com va y arriver. Tu y crois, toi, Léo, à cette proposition? Ou est-ce que tu veux peut-être réagir aux news de Guillaume, hein, juste avant?
Aucune idée de si ça va fonctionner. Je me hype pas plus trop pour les nouveaux réseaux sociaux, parce qu'on en a vu quand même passer quelques-uns. Je sais pas exactement ce qui fait, peut-être la popularité, ce qui fait qu'un réseau social devient assez cancérigène, un petit peu comme Twitter, même si j'adore Twitter, hein, mais bon, faut avouer que ça respire pas la positivité non plus constamment. Mais il y a des réseaux comme Reddit par exemple, ou sur lesquels moi je prends un plaisir fou, parce que les informations sont cohérentes, parce que les gens discutent, parce que les gens ont l'air cultivés, ont l'air de s'intéresser aux choses. Donc il y a quelques réseaux sociaux comme ça qui sont assez exceptionnels. Si vous avez passé trop de temps sur Twitter, je vous invite à aller sur Reddit un petit coup, parce que ça fait vraiment du bien.
Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment toujours beaucoup de mal, mais je crois que c'est une histoire d'interface sur Reddit. Il faut avoir vraiment la volonté d'y aller.
C'est moche, hein. C'est peut-être aussi pour ça que les gens y vont pas. Hein. C'est parce que...
Il faudrait vraiment que quelque chose soit fait pour l'expérience de navigation. Guillaume, Reddit, c'est quelque chose qui te sert dans ta veille ou pas forcément aujourd'hui?
Un petit peu, c'est pas mal. Il y a tout sur Reddit. Hein. Il y a du bon, du moins bon, il y a de la transe, il y a du marron. Non, il y a de tout. Mais Reddit, oui, effectivement, ça peut être une plateforme super intéressante. Ça dépend des Reddit, des subreddits qu'on suit. Quoi,
oui, voilà, mais au moins vous choisissez ce que vous regardez, c'est ça qui est bien.
Je vais essayer de me retrousser les manches et de retourner sur Reddit. Tiens, vous me donnez envie de m'investir un petit peu plus. En parallèle, juste un petit mot. Alors, c'est une news qui date un petit peu, hein, puisque c'est une étude que j'ai vue passer début octobre, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Mais c'est une étude aux États-Unis qui montre que l'évolution des usages qu'on a connus constante depuis les années 90, que ce soit sur l'utilisation d'Internet, que ce soit sur l'utilisation des téléphones portables, des smartphones plus précisément, précisément, des réseaux sociaux, évidemment des tablettes, même si c'est arrivé plus tard, stagnent. En fait, depuis 2016, ce sont des usages qui tendent au mieux à stagner. Il y a Internet qui progresse encore un tout petit peu cette dernière année en termes de pourcentage d'utilisation, de pourcentage des utilisateurs plutôt. Mais par contre, il y en a qui baissent, notamment l'utilisation de l'ordinateur et de l'ordinateur portable. Mais ça, je pense que c'est effectivement contrebalancé par les usages du smartphone. Mais le smartphone ne progresse pas plus que ça. La tablette continue à progresser, mais ce n'est pas non plus démesuré. Et les réseaux sociaux plafonnent aussi. Finalement, je pense qu'on est arrivé à un plafond de verre de l'utilisation de ces nouvelles technologies-là, et ça va peut-être se basculer sur d'autres technologies qui sont en gestation, mais c'était intéressant, je trouve, dans cette étude, que vous pourrez aller consulter, ou en tout cas l'article qui est tiré de cette étude, pour aller consulter ça dans les notes de l'émission, évidemment. Alors justement, des nouveaux usages technologiques, des nouveaux appareils peut-être qui arriveront demain, c'est, pourquoi pas, des lunettes connectées, ça oui. On en a entendu parler, hein, des lunettes de réalité augmentée, des lunettes peut-être de réalité virtuelle. Je pense que ce sera la prochaine étape, évidemment, des appareils quand ça arrivera et quand ce sera facile de les porter et de les utiliser au quotidien. Mais il y a ces lunettes de AdBlock qui sont d'ores et déjà disponibles, en tout cas en précommande sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Ce sont des lunettes qui ressemblent vraiment beaucoup à des lunettes de soleil et qui ont comme particularité de filtrer les publicités sur les écrans numériques dans la rue. Donc vous baladez dans la rue, par exemple à la Défense, là où il y a des publicités sur des écrans, et bien ça va vous les filtrer. Alors bon, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en fait ça a un peu le comportement d'une chimiothérapie, c'est-à-dire que ça ne cible pas que les publicités, mais ça vous coupe de la plupart des écrans qui sont diffusés dans la réalité, et donc il n'y a pas beaucoup de sélection, hein. La promesse de vous cacher les publicités, elle est vraie, mais en fait ça va quand même vous cacher beaucoup beaucoup d'écrans. Et pourquoi pas, cela dit, j'ai trouvé ça assez dingue. Vous êtes prêt à participer à ce Kickstarter, Léo?
Alors, j'essaie de bien investir mon argent. Non, je trouve ça intéressant. C'est peut-être un petit peu tôt. Je suis pas sûr que les gens comprennent vraiment. Mais en fait, je pense qu'au bout d'un moment, ce sera une nécessité. Après, je pense que...
Au même titre qu'il y a les adblocks sur les navigateurs aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire.
Il faudrait pas qu'ils fassent des lunettes, il faudrait qu'ils fassent une extension dans les nouvelles Apple Glasses, en fait.
Oui, déjà, tu vois les choses en grand, c'est parfait.
Bien sûr.
Guillaume, ça allait bien dans la rubrique dystopie, ça ?
Ah oui, je trouve aussi, bah oui, parce que quand on commence à ressentir le besoin d'avoir des lunettes qui cachent les écrans, parce qu'en fait, ça cache tous les écrans LCD. Ça rend noir tous les écrans LCD, puis c'est des lunettes polarisées. Et bah écoute, oui, là, ça veut dire qu'on se sent quand même un petit peu agressé. Alors, en France, je suis pas sûr qu'on ait vraiment, tu vois, en France,
non,
je pense pas
là
qu'on ait, voilà, qu'on en ait vraiment besoin, même s'il y a effectivement des pubs, vidéos un petit peu partout, comme tu disais. Je pense pas que ce soit vraiment, vraiment nécessaire, mais bon, écoute, peut-être dans un futur proche, hein. En tous les cas, tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez un téléphone OLED, parce que sinon, vous verrez pas noter votre téléphone non plus.
Achetez un iPhone 10S Max.
Lui, il est LCD. Non, il est OLED. Justement. Ça me fait penser à Cédric Tamboise, cette news qui organisait, je crois qu'il l'a fait toujours d'ailleurs, hein, en famille, une soirée sans écran dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils terminent leur journée, ils viennent et puis ils n'allument pas d'écran jusqu'au lendemain matin. Je trouvais ça assez intéressant. Ça montre bien, encore une fois, cette démarche de limiter les usages de la tech. Alors, toujours dans la rubrique dystopique, ça fait froid dans le dos. Dans la famille, Black Mirror l'avait dit avant et la réalité rattrape la fiction. Parce qu'il y a un épisode de Black Mirror qui relate le fait de conserver plein d'échanges de données sur des réseaux sociaux d'une personne, et une fois qu'elle est décédée, ça permet de recréer une intelligence qui ressemble en tout point à cette personne décédée. Je vous spoil pas plus, si jamais vous avez pas vu cet épisode de Black Mirror, il faut regarder Black Mirror, je vous rappelle. Là encore, il y a une news qui ressemble furieusement à ce scénario, voire même qui irait plus loin, c'est qu'on irait collecter l'intelligence d'un responsable d'une entreprise pour qu'une fois qu'il est décédé, il puisse continuer à conseiller l'entreprise avant de faire réagir Léo sur les perspectives que ça aurait pu faire de conserver un Steve Jobs. Je te laisse Guillaume détailler la news.
Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui regardent Black Mirror et qui flippent, et puis il y a ceux qui regardent Black Mirror et qui disent « chouette, c'est une super idée ». Bon, il y a aussi les gens qui regardent pas Black Mirror, donc techniquement ça fait trois types, hein, mais bon, on s'en fout. Donc oui, il a vu bien
Ride Break. Ça n'existe pas. Ça.
C'est pas, malheureusement, si, il y en a encore. Dans tous les cas, lui, effectivement, il a dû voir Be Right Back, hein, donc c'est dans la saison 2, si vous le cherchez, c'est le premier épisode de la saison 2, là où il y a une jeune femme qui a une relation un peu compliquée avec le clone numérique de son petit ami mort. Le mec s'appelle Osen Ranama, désolé. Il s'est dit, lui, qu'il y avait un marché pour ça, tout simplement. Donc, comme tu disais, il récolte un max de données sur toi après ta mort pour construire un clone numérique. Donc, en gros, comprendre un chatbot hein, pour le moment. Et donc, évidemment, après, ben, ceux qui restent pourront discuter avec toi. Il a une application. Enfin, il veut créer une application pour ça qui s'appelle, en toute simplicité, Augmented Eternity. Voilà, donc pour vous faire entrer dans l'au-delà numérique, hein, tout simplement. Oui, tu disais, l'exemple qu'il donne, ça montre bien la toxicité de l'idée, finalement, puisque c'est un PDG mort qui peut donner des conseils à des pauvres collaborateurs désemparés, quoi, tu vois, via une fenêtre de chat. Parce que bon, c'est quoi la compétence d'une poignée de gens vivants, tu vois, qui font leur boulot, face à l'immense sagesse d'un gars mort depuis on ne sait pas combien de temps, et qui donc, à moins que les chatbots ne lisent Bloomberg, va quand même avoir beaucoup de mal à faire autre chose que radoter. Parce que même si Hossein il réussit à faire mieux que les précédentes tentatives, parce qu'il y a déjà eu des tentatives, hein, on se souvient, en 2015, il y a un jeune russe qui a été digitalisé par sa compagne, entre guillemets évidemment, mais ça n'avait pas super bien marché. Alors lui, par contre, il voudrait contextualiser le chatbot, si tu veux, pour prendre en compte les multiples facettes de la personnalité, du caractère. Mais bon, quand même, ça va rester un truc basé sur des données passées du sujet. Donc le bot va rester figé. Le bot n'aura pas de nouvelles expériences, il n'aura pas de nouveaux souvenirs, il ne va jamais changer. Et c'est peut-être bien ça, être mort d'ailleurs, tu vois, rester indéfiniment figé dans le temps. Alors, bon, bien sûr, même si vous n'êtes pas mort, tu pourrais me dire, bah, vous pourriez quand même faire un clone, un avatar de toi, pourquoi pas. Il y a un autre exemple, c'est un avocat qui facturerait moins cher une consultation avec son double numérique, et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si t'as du fric, bah, t'as le vrai avocat, sinon t'as une copie plus ou moins fidèle. Enfin bon, je m'égare peut-être.
Ouais, mais ça ressemble quand même à des scénarios de science-fiction où finalement tout ce qui est authentique et fait de chair humaine devient plus précieux que la technologie. C'est fou ce renversement. Léo, tu réagis si tu veux, bien entendu.
Oui, tu disais ressusciter Steve Jobs, il n'aurait pas aimé ça, vu qu'il a dit justement la mort est la meilleure invention de la vie. Moi, je commencerai à avoir peur en fait quand ma Google Home me répondra avec la voix de cette personne décédée. Ouais. J'ai éteint trois lumières. Là, ce serait un peu flippant. Non, je comprends pas en fait qui a envie de ça. Parce que sinon, on peut empailler les cadavres aussi. Hein, c'est à peu près le même principe. Donc non, j'ai un peu de mal à voir le qui est la cible, mais peut-être qu'il y a des gens qui souhaiteront ça.
On peut faire des liens avec une des vidéos que tu avais diffusée d'ailleurs, Léo. Je crois que je l'avais déjà mentionnée, mais elle m'avait marqué, parce qu'elle était peut-être très dérangeante, ta vidéo. mais sur cette personne qui choisissait, en gros, la date de sa mort, quoi. Mm-hmm. Et bon, moi, ça me retourne les tripes à chaque fois, ce genre de sujet. Je crois qu'il y a peut-être des parallèles à faire à ça. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de la tech et de la conservation d'une identité au travers d'une intelligence artificielle plus ou moins, d'ailleurs, réaliste, enfin, plus ou moins authentique, qui reflète plus ou moins bien la personne décédée. CD qu'on essaie de reproduire, mais il y a aussi des parallèles dans les technologies qu'on pourrait imaginer sur la fin de la vie qui sont assez qui font froid dans le dos là aussi. Alors on va rester dans le domaine des vivants, puisque quand même on est tous là autant qu'on est, jusqu'à preuve du contraire, des êtres vivants.
C'est Halloween, hein. Il peut se passer tout et n'importe quoi.
Cette saison, c'est en Suède où on a une initiative, alors pour le coup, moi qui me séduit un petit peu plus, mais on va peut-être la mettre en lumière de nos discussions, d'une pupuce. Bah tiens, qu'est-ce qu'a fait cette pupuce, Guillaume ?
Ben oui, c'est une pupuce. Alors, 4000 Suédois se sont fait implanter une puce RFID passive, donc, hein, dans le pouce. Elle contient 1 kilo-octet de données d'identification variées. Bon, ça marche plutôt bien, hein, puisque la grosse compagnie ferroviaire du pays accepte d'utiliser cette puce à la place du ticket. Et bon, c'est vrai que la Suède est un pays qui est un petit peu moins regardant sur la vie privée, parce que les gens ont un fort taux de confiance quand même dans le gouvernement, les institutions et leurs compagnies. Bon, du coup, ça a plutôt le vent en poupe. Il y a une deuxième version qui est en cours de développement. Il y aura une petite LED d'ailleurs pour montrer quand est-ce qu'elle est accédée, et jusqu'à 2 kilo-octets de données stockables dans lesquelles tu peux mettre ton profil LinkedIn, tous tes identifiants variés, etc., etc. Et donc oui, effectivement, vous feriez-vous implanter une puce avec vos identifiants juste pour vous loguer comme ça dans le revers de main ?
Alors moi, la réponse c'est oui, à condition que les infrastructures au quotidien soient pensées pour, parce que je suis pas certain qu'aujourd'hui, déjà que la RATP accepte pas les smartphones pour prendre le métro, donc j'imagine qu'une puce comme ça implantée dans le pouce encore moins, quoique c'est peut-être plus simple. Léo, ça t'inspire ou pas ? Ça te fait peur ?
Ça me fait peur, oui et non. Quel est le réel intérêt d'une puce sous-cutanée par rapport à une empreinte digitale par exemple ?
Ah ah, question piège, Guillaume. T'as vu, quand c'est des questions pièges, moi je refile la babale à
Guillaume. Stéphane Talchon. Non, bah écoute, là, c'est quand même très différent, je pense, parce que ça voudrait dire que ton empreinte digitale est enregistrée par tout le monde, est connue de tout le monde. Alors c'est juste ton identifiant qui est connu de tout le monde.
Ça viendra bien assez tôt. Oui, non, mais je vois l'idée. Oui, je suis pas trop pour. C'est quand même une limite qui est... qui est assez extrême de commencer à se mettre des puces. Alors je dis pas que je le ferai pas, peut-être que je le ferai, mais je pense que j'y réfléchirai un petit peu quand même.
Ouais, finalement, je me dis entre ça et porter une montre connectée.
Bon, je préfère porter une montre parce que je l'enlève le soir, en fait.
Ouais, oui, c'est vrai. Exact. Et puis, on va s'élever un petit peu intellectuellement par rapport à tout ça, si c'est encore possible, en touchant des sphères artistiques et on va toucher des domaines de vente de portraits originaux, Guillaume.
Mais vous avez certainement vu, hein, c'est le gros coup, le gros coup. Parce que quand même, vendre une image imprimée en jet d'encre 432 500 $, c'est quand même pas mal, hein, surtout quand on l'a
c'est
pas dessiné soi-même.
C'est plus cher qu'un Mac Mini.
Ça fait pas mal
ça
de Mac Mini.
Ça doit être un portrait fait par Apple.
C'est, oui, alors, je sais pas, peut-être que ça a été calculé. Non, en fait, ça a été calculé, je le sais, parce que j'ai regardé, je crois, ça a été calculé par des Tesla ou un truc comme ça, une machine comme ça. Enfin, en tout cas, c'est une IA, effectivement, qui a un réseau de neurones GAN, donc réseau de neurones adversari, là, comme on en a beaucoup déjà parlé, hein, on en parle assez souvent. Et donc, c'est le genre de truc qui est capable d'imaginer aussi bien des animaux, des peintures, ou des peintures à donner des cauchemars à Salvador Dali, d'ailleurs, ou des portraits de célébrités, comme on va en reparler plus tard, hein, d'ailleurs, très prochainement, et donc c'est chez Christie's que la première peinture réalisée par une IA a été vendue à un acheteur anonyme qui a peut-être peur que se moque de lui. Elle s'appelle Portrait d'Edmond Bellamy, mais qui n'existe sans doute pas, et le code vient d'un collectif, Obvious, qui l'a repompé un petit peu à de droite à gauche. C'est des Français, hein, qui ont entraîné le réseau sur des peintures historiques, sauf qu'au lieu de publier bêtement un article scientifique comme tout le monde, bah, ils ont cherché des gens qui ont beaucoup trop d'argent, et Christie's, il est très doué pour ça. Bah, bien joué, en somme.
Ouais, finalement, c'est un joli coup commercial, tout ça.
Ouais, très très beau.
Bah, bien joué à eux. Merci pour toute cette revue, Guillaume. On rappelle à tout le monde, hein, c'est hyper important, gardez-le en tête, que une denrée très importante pour nourrir un podcasteur, c'est les commentaires, les avis, les étoiles que vous... C'est l'amour, évidemment, mais aussi les étoiles, les commentaires et les avis que vous pouvez déposer. Alors, ça peut être sur le site de Tech Café, si jamais vous voulez que vos commentaires puissent être consultés par d'autres auditeurs et puis qu'on puisse réagir et discuter ensemble sur la base des informations qu'on diffuse dans le podcast. Et puis, si vous voulez réagir en temps réel, vous pouvez rejoindre aussi le channel Telegram qui est disponible dans les notes de l'émission avec un petit lien. En un clic, vous accédez à ce groupe de discussion. Mais encore une fois, je rappelle l'importance qu'il peut y avoir à nous donner des notes et nous faire part de votre avis sur le podcast, sur les magasins de podcast. Le plus incontournable restant celui, désolé, d'Apple, que ce soit iTunes ou podcast d'iOS, on compte sur vous. On enchaîne avec la rubrique En Bref, qui j'espère va bien porter son nom parce que il y a beaucoup
très,
de liens.
Très mal parti.
C'est très mal parti, mais on va essayer quand même de traiter ça assez rapidement pour pas assommer tout le monde. On a la minute intelligence artificielle. Il y a du mieux, Guillaume.
Oui, bah oui, on continue sur la lancée, puisqu'on parlait de GAN qui fabrique des images, et je sais que tu es ton rêve un petit peu, c'est d'avoir, tu sais, de pouvoir faire des films ou des séries avec des acteurs qui soient complètement customisables,
à
la carte, voilà, ce genre de truc. Et donc, on avait déjà relayé donc des GAN, voilà, des réseaux de neurones comme ça qui étaient capables, après avoir vu des dizaines de milliers de photos de célébrités, de créer des photos de célébrités qui n'existent pas, des têtes de célébrités qui n'existent pas. Alors, c'était déjà très cool, je ne sais pas si tu t'en souviens, hein, c'était une démo d'NVIDIA, il me semble, et bon, c'était assez impressionnant, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, si tu veux, chaque visage était généré de manière un peu aléatoire. Il partait d'un vecteur aléatoire, donc c'est-à-dire dans un espace latent qui était un petit peu inconnu comme ça. Et donc, il y a un étudiant qui, lui, s'est dit, cet espace latent, je vais essayer de voir un peu la tronche qu'il a, et je vais voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Et il a réussi à en tirer, il a réussi à tirer des paramètres qui sont des paramètres visuels. Donc par exemple, il est capable de te fabriquer une photo de célébrité où tu peux régler le sexe, c'est-à-dire plus ou moins féminin, plus ou moins masculin, où tu peux régler la longueur des cheveux, s'il a des lunettes ou pas, s'il sourit ou pas, etc. Il y a énormément d'illustrations dans le lien. C'est vraiment impressionnant parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire tu crées ta star, tu la customises complètement, et c'est juste un début en plus, donc c'est assez fou. Je pense que t'as vu ça, est-ce que ça t'inspire? Quelle serait ta star favorite? Alors tu fais combien de Scarlett Johansson, combien de Taylor Swift, plus combien de Brad Pitt?
Je me prononcerai pas sur quels usages je ferai de cet outil. Après tout, je garde ça pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, moi, j'avais en tête le fait qu'on puisse choisir son acteur parmi quelques acteurs connus et que tu choisisses un peu les thèmes clés de ton scénario, de dire si c'est un thriller, un truc d'amour, etc. Mais on peut même aller plus loin, effectivement, pour dessiner toi-même ton acteur. C'est-à-dire que si tu trouves que Scarlett Johansson, elle a pas la bonne coiffure, tu peux même la changer, quoi. Ça va quand même assez loin. C'est bluffant, c'est bluffant. On continue, hein, d'ailleurs, n'hésite pas à enchaîner les news, sauf si Léo veut réagir, n'hésite pas à les enchaîner.
Non, moi j'aimerais juste voir un 10% Beyoncé, 90% Guillaume Vendée.
Ce serait exactement pareil pour toi. Ce serait exactement pareil, c'est Jane Star.
C'est mignon.
Écoute, oui, bah, on va continuer avec Adobe, oui, puisque Adobe, tu sais, chaque année, ils montrent des nouvelles fonctionnalités qui vont ou pas se retrouver dans les produits finaux. Et donc là, c'est des trucs assez rigolos. Donc il y a un truc qui s'appelle Projet Kazoo, c'est le vendeur de la Fnac, tu sais. Tu lui chantes une petite chanson avec ta voix à la con, et après tu remplaces par un instrument, et donc tu peux faire des musiques comme ça juste en chantant. Bon, ça marche pas mal, mais enfin, honnêtement. Bon, voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose. Et ils ont aussi un truc plus intéressant, je pense, ils ont Project Face Mask, qui est donc une sélection intelligente. Donc, par exemple, vous sélectionnez un petit chat, ou bien une petite fille, ou bien un gars, voilà, sur une vidéo, et ça le sélectionne automatiquement à partir de deux points de contrôle. Le plus fou, c'est que ça le sélectionne aussi sur toute la vidéo, c'est-à-dire que la sélection peut suivre les mouvements du sujet, ce qui, évidemment, peut faire gagner un temps précieux, je suppose, aux vidéastes, hein. J'imagine que c'est une fonction qui pourrait être vraiment très très cool. Et un petit peu dans le même état d'esprit, mais pas appliqué à la même chose, il y a le projet Good Bones, qui est du rigging automatique. Donc le rigging, c'est quand vous mettez sur une structure en 3D ou en 2D éventuellement, quand vous mettez un squelette un petit peu en fil de fer comme ça, avec des points de contrôle qui vous permettent de contrôler globalement les membres, par exemple, de votre animal. Voilà, vous avez un animal en dessinant en vectoriel, vous faites un squelette, si vous déplacez un os, il déplace la patte, il déplace la bouche, il déplace la queue, et ça sans toucher au truc de base, c'est-à-dire que l'animation ou la déformation se fait de manière complètement automatique. Et donc avec Project Good Bones, le rigging aussi se fait de manière automatique, c'est-à-dire que c'est lui qui crée le squelette tout seul, et qui est capable de modifier la pose des dessins vectoriels que vous faites, et même de créer des animations avec des points clés comme ça. Donc c'est assez, là aussi c'est assez bluffant, je pense que c'est le genre de truc qui pourrait être vraiment très 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 intéressant pour les créatifs. Je sais pas si vous avez une idée, moi je suis pas très créatif graphique, mais bon.
Moi je suis pas trop dans la vidéo, moi c'est pas trop mon truc, mais j'ai quand même l'impression que ça fait partie des domaines dans lesquels les nouvelles technologies de type effectivement intelligence artificielle, enfin conduites par l'intelligence artificielle, vont énormément aider les vidéastes et le travail qui va être fait dans le domaine de la vidéo. Ça me paraît évident, effectivement. Il y a le comité contre les encoches qui voulait une nouvelle fois prendre la parole. Vous savez que je suis contre, moi, enfin je suis pas partisan du tout, hein, du comité contre les encoches, mais il a une place de choix dans ce podcast. Il y a d'ailleurs son président qui est présent autour de la table, n'est-ce pas, Guillaume? Et alors tiens, j'en profite parce que ça m'y fait penser maintenant, j'ai pas eu l'occasion de le dire avant. J'espère, Léo, que tu n'as pas écouté le précédent épisode de Tech Café, le numéro 103, parce qu'il y avait Guillaume et Tom qui parlaient notamment de Face ID. Je fais le lien à encoche, Face ID, et puis je voulais absolument réagir et le reglisser. Non, mais vous avez été d'une mauvaise foi, Guillaume, par rapport à Face ID, qui vous faisait froid dans le dos. Alors notamment Touch ID, mais alors avec Tom. Alors Tom, si tu nous écoutes, je te le dis, j'aurais dû te le dire par message. Vous savez que Tom, il disait, ah non, moi je préfère Face ID, je préfère Touch ID, parce qu'il y a des fois où j'ai besoin de juste lire l'heure sur mon téléphone. J'ai regardé, mais je me disais, quelles mauvaises excuses on peut trouver pour attaquer Face ID. Il n'y a absolument pas besoin de Touch ID pour lire l'heure sur son téléphone, et il n'y a pas besoin de Face ID non plus,
étant donné
il suffit d'appuyer dessus.
Il se déverrouille, mais il ne s'ouvre pas en fait.
Voilà, s'il fallait que ce soit dit, excuse-moi, ça m'a fait penser.
Quel scandale.
Avec sa sorte, non, mais c'est bien.
Il y avait de la mauvaise foi là-dedans, il y avait des choses fondées, mais il y avait aussi de la mauvaise foi, c'était pas bien. Je vous félicite pas. Donc, le comité contre les encoches va se prononcer. Cette fois-ci, il y avait des encoches plus ou moins larges, on commence à voir des encoches rondes, on commence à voir des encoches qui sont carrément à l'intérieur de l'écran, le trou, hein, vous en avez parlé la dernière fois. Et cette fois-ci, on commence à voir des encoches décentrées. Alors là, je souhaite connaître la position du comité contre les encoches par rapport à ce qui a été présenté pour le Zenfone 6.
Écoute, il est né du trou décentré comme du trou centré. ça reste un trou. Un trou reste un trou, je le répète. Et donc, le CCE ne le cautionne pas. Il salue l'effort de réduire le trou et d'essayer de le rendre un petit peu moins trou, mais ça reste un trou, malheureusement. Alors du coup, je pense que le CCE, lui, par contre, est, je dirais, presque comblé par le Honor Magic 2, qui a un écran bord à bord sur absolument toute la surface, même si, comme le Mi Mix 3, il émet des réserves quant à, si tu veux, quant sur le long terme, quant au mécanisme de slide. Néanmoins, s'il faut en passer par là pour ne pas avoir de trou, eh bien, ainsi soit-il.
Je trouve que le CCE prend trop à cœur son travail, et je pense qu'au bout d'un moment, il vaut mieux un petit trou qu'une partie mécanique glissante, mais bon.
Guillaume, laisse-les, regarde, on les voit tous tomber, toutes les marques, là, elles arrivent sur l'encoche. Moi, je préfère ne rien dire, j'attends.
C'est non, vrai. Mais le CCE précise que l'encoche n'est pas un objectif à atteindre, mais quelque chose que nous devons subir en attendant que les technologies mûrissent.
Ah, mais alors là, complètement, je suis d'accord.
J'ai presque envie de rejoindre le CCE, effectivement, avec cet argument massue. On continue avec les smartphones. Là, un petit peu de malaise. On va parler du Red Hydrogen One, qui, contrairement, j'aime bien l'accroche de Numérama dans l'article, n'est pas Red Dead Redemption 2 qui veut, parce qu'effectivement, le Red Hydrogen One, qu'on avait déjà commencé à relayer dans Tech Café et puis de manière générale dans la sphère tech, comme étant cette révolution avec un écran holographique, alors déjà ça fait peur, un design très déroutant. Bon, bref, ce smartphone est enfin arrivé entre les mains expertes de testeurs qui, d'un aveu commun, reconnaissent le fait que c'est clairement décevant. Les notes sont catastrophiques et pour cause, les parties holographiques peuvent être intéressante, mais finalement pas beaucoup plus qu'une 3DS de Nintendo qui est sortie il y a 7 ans de ça. La 3DS fait même mieux, ça rend un petit peu malade, et en plus c'est pas là tout le temps, et on a du coup des affichages 2D classiques sur Android, sur le smartphone, dans 80% des cas, et quand on lance les quelques applications qui sont compatibles, on a un effet de flou qui parfois même rend malade. On s'y attendait, le Red Hydrogen One sera pas le smartphone de l'année, on en a désormais la certitude. On continue avec les appareils pliants, parce que c'est une arlésienne de voir peut-être demain un smartphone pliant, même si moi je commence vraiment à me demander si ça va servir à quelque chose, cette histoire.
J'en ai marre de ça, mais tous les mois on nous sort des articles depuis 6 ans,
mais attends,
pour nous dire le smartphone pliable. Mais parlez-en quand il est sorti, non?
Il y a du nouveau. Ouais, mais c'est parce que les gens attendent impatiemment cette révolution.
Non, personne n'attend ça. Il n'y a que Samsung qui attend ça. Personne n'attend.
Si, Guillaume, il attend ça, je sais.
Oui, mais c'est ce que je dis. Samsung, c'est pareil pour moi, c'est le même combat. Personne ne l'attend.
Ah non, je ne suis pas un féodé à Samsung, attention.
Non, mais tu fais partie du CCE, tu es obligé d'être avec eux.
Alors, je dois reconnaître que le CCE, effectivement, se sent assez soutenu par Samsung.
Voilà.
Tout à fait, oui. Ça, c'est, il faut avouer que nous avons parfois des convergences de vues.
Je me demande si c'est pas un lobbying que fait Samsung via le CCE ou l'inverse d'ailleurs. Mais en tout cas, Samsung travaille aussi non seulement à des smartphones pliants, mais à des ordinateurs portables à écran pliable. Voilà, ça c'était la petite news qu'on va pas plus commenter que ça. Mais le smartphone ne sera peut-être pas le seul élément d'écran pliable qui arrivera demain. Autre chose aussi, hein, pendant qu'on parle de Samsung, ça paraissait incontournable de quand même vous mentionner cette petite anecdote que vous pourrez prendre le temps d'aller creuser dans les articles qui relayent ce sujet. Ça a fait un petit peu le buzz ces derniers jours, avec des ambassadeurs de la marque Samsung, donc des personnes qui ont pignon sur rue, parfois même des personnes très influentes dans des milieux même politiques ou du showbiz, qui ont des contrats assez juteux de la part de Samsung. Les estimations monte notamment à 1 et quelques millions d'euros pour se montrer en public avec un Samsung, sauf que y a une personne là, dont je vais retrouver le nom, mais qui est une ambassadrice russe de Samsung, qui s'est vue surprendre en compagnie d'un iPhone 10 sur le plateau. Donc voilà, ça c'était le petit troll qui visait spécifiquement Samsung, qui a des défenseurs de Samsung. J'espère que vous en voudrez pas trop, ça me faisait quand même
vachement
sourire. On leur
dit pour les autres ambassadeurs, ou on attend un peu?
On va attendre un peu, je pense. On va attendre un peu. Allez, rubrique pognon monstre, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de l'argent en ce moment?
Oui, de là, ça fait peur tellement il y a du fric, hein, c'est assez hallucinant. Alors, on va commencer par Tesla. Tesla, donc, c'est 880 millions de dollars au troisième trimestre de revenus et 312 millions de bénéfices. C'est même plus qu'attendu par les experts. Tesla, c'est 50 milliards de dollars de capitalisation, mais 10 milliards de dettes. Mais maintenant que la Model 3 se vend bien et que les chaînes sont en route, hein, globalement, Tesla va pouvoir non seulement rembourser ses créanciers, mais se lancer carrément dans d'autres campagnes d'investissement. Hein, Mais il va commercialiser le modèle Y, qui sera à peu près comparable au modèle 3, un Roadster, qui probablement sera vendu plus cher et donc à moins grande quantité, et aussi des camions, probablement aussi, qui seront forcément moins grande quantité, des paris beaucoup moins dangereux, puisque globalement, ce qui est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le graphique qu'il y a dans l'article, c'est qu'on voit quelle est la stratégie de Tesla, et qu'à chaque fois, si tu veux, ils sont vraiment sur du pari, des paris qui sont plus gros à chaque fois, et le modèle 3, c'était le troisième pari, c'était très largement le plus gros. Donc, quand Tesla est né, il y a eu le pari de la Model S, et donc on a vu les investissements et donc bah, le fric fout le camp jusqu'à la commercialisation. Puis, quelques trimestres plus tard, ils sont passés dans le vert, ce qui a rassuré un peu les investisseurs. Donc, ils ont pu lever beaucoup plus de fonds pour le modèle X et rebelote. Hein, donc, ils ont réussi à épauger leurs dettes en quelques trimestres. Et là, pour la Model 3, ça a été vraiment très, 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 très important comme dette. Et d'ailleurs, bon, on sait que ça a été très, très compliqué, mais bon, ça se vend très bien. Alors, les investissements étaient énormes, le retour sur investissement est aussi énorme parce que la Tesla Model 3 se vend beaucoup plus. Du coup, on se retrouve avec un Tesla qui va plutôt bien et qui probablement rassurait les investisseurs, ce qui fait que lever du fric pour des projets qui seront technologiquement probablement un peu moins compliqués, ben ça va bien se passer, donc l'avenir est quand même beaucoup plus serein pour Tesla. Je sais pas si tu avais vu ça, tu en avais parlé pas mal de Tesla, bon ben finalement, tu vois, tout s'arrange.
C'est vert, c'est une grosse barre verte, c'est cool, mais c'est une grosse barre verte comparée à toutes les autres barres, et je pense qu'il faut aussi garder vachement de prudence, parce qu'il faut que ça se confirme. Après, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas être sur une bonne dynamique chez Tesla quand on voit ça.
10 milliards de dettes.
Il y en a qui ont subi bien plus dans le passé, voyons.
Bon, on peut continuer sur Intel, sauf si évidemment vous pouvez me couper quand vous voulez. Hein, parce que là, effectivement, il y aura un petit tunnel de résultats financiers parce que c'est la période. Donc Intel va très bien. C'est 19,2 milliards de chiffre d'affaires, 6,4 milliards de bénéfices, c'est-à-dire 42% de mieux que l'an dernier. C'est le meilleur trimestre de leur histoire. Toutes les
c'est
divisions
parce qu'on
vont bien.
D'Intel, hein, quand on parle d'Intel dans les podcasts en ce moment, c'est plutôt en critique qu'en valorisant
absolument,
leurs résultats.
Absolument, donc, absolument. Et en grande partie parce que les 10 nanomètres sont toujours plus en retard. Ça fait 5 ans qu'on les attend. Enfin, c'est pas 5 ans qu'on les attend, mais ça fait quand même un moment qu'on les attend, plusieurs années. Mais bon, ça n'empêche pas Intel de vendre des Xeon à l'appel pour les data centers, hein, puisque le Xeon vole le show avec 1 milliard de dollars de plus de bénéfices qu'attendus, ce qui est proprement énorme. Donc, bah oui, Intel reste quand même sauvé par ses fournisseurs pour les gros serveurs. Bon, AMD, par contre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un chiffre d'affaires assez important, 1,65 milliard de dollars. Donc c'est un petit peu décevant, mais les bénéfices, c'est 102 millions. Donc c'est pas énorme non plus, même si c'est bien meilleur que l'an dernier. C'est en deçà de ce qu'attendaient les investisseurs. Hein, l'action a dévissé de 24% après l'annonce des résultats. Et bon, la faute, probablement, aux ventes de GPU qui inquiète un petit peu, parce que bah, y a eu le crash des cryptos, et donc ils vendent beaucoup moins de Radeon, et ça, c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, les ventes de CPU vont plutôt bien. Il y a une adoption assez rapide de Ryzen et d'EPYC, même au niveau des serveurs. Donc bon, il n'y a pas de quoi non plus crier à la catastrophe. On peut continuer avec Microsoft, parce que comment ça va Microsoft? Comment ça va Redmond à ton avis? Eh ben ça va mieux que jamais.
J'espère que ça va mieux que les mises à jour de Windows 10.
Écoute, eux ça, mais alors là, les mises à jour de Windows 10, oubliez, 29 milliards de chiffre d'affaires, 8,8 milliards de bénéfices, Satya Nadella est content, et Steve Ballmer aussi, parce que n'oublions pas qu'il est toujours actionnaire lui, hein. C'est les revenus d'Azure en particulier qui explosent. Toutes les divisions affichent des croissances à deux chiffres. Et globalement, on va le voir sur Amazon aussi. Amazon va très très bien. Et c'est surtout AWS, hein, Amazon Web Service, qui va bien puisque sur les 3 milliards de bénéfices qu'engrange Amazon, il y en a 2,1 qui viennent d'AWS. Et pourtant, AWS ne représente que le huitième du chiffre d'affaires. Donc on voit bien où est le cœur du métier d'Amazon. Ben, c'est AWS en fait. Et donc grosso modo, Microsoft, Amazon et Intel sont sauvés par le fait qu'il y a besoin de toujours plus de data centers, de toujours plus de serveurs, et que donc bah, forcément il faut bien des gens pour les fournir. C'est d'ailleurs, je crois que oui, on peut parler en passant d'IBM, Alors IBM, bon, ce n'est pas les résultats qu'on a, mais il y a quand même puisqu'on est dans une entreprise gros sous, et qu'on parle de data center, il y a eu un coup de tonnerre, hein, puisque IBM a racheté Red Hat pour quand même 34 milliards de dollars. C'est un gros coup, parce qu'IBM est un gros fournisseur de serveurs, il a son propre OS, mais il a pas mal délaissé auprès de Linux, depuis des années d'ailleurs, et il a beaucoup travaillé avec Red Hat sur RHEL, donc RHEL, c'est Red Hat Enterprise Linux, et il pourrait commercialiser donc du matériel, du software, ou les deux, donc c'est une manière de se diversifier pour IBM. Et IBM, c'est pas Oracle, donc il y a des chances quand même que Red Hat reste open source et que tout ça soit plutôt sympathique, parce qu'on sait qu'évidemment, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes, tu vois, les mêmes traditions, quoi.
Je me trompe peut-être, mais c'est ceux qui chantaient Californication, c'est ça ?
Qui ça, RHEL ?
Red Hat, voilà.
Red Hat, ah oui, les Red Hat Chili Peppers, bien sûr.
Voilà, merci.
Tout à fait.
Je l'avais pas vu venir, celle-là.
34 milliards, c'est cher pour les Red Hat, quand même. Hein.
Écoute, ça vaut au moins ça.
L'art n'a pas de prix, on l'a vu tout à l'heure avec des portraits. Twitter, du coup.
Twitter, bah écoute, oui, quelques mots de Twitter, parce que quand même, Twitter a enfin réussi à être rentable toute une année, 106 millions ce trimestre, après des trimestres à 100 millions. Donc ça y est, les revenus qui viennent principalement de la pub, en particulier des pubs vidéo, donc ça y est, on peut le dire, Twitter est vraiment rentable. Peut-être qu'il a trouvé son rythme de croisière, on pensait que ça n'arriverait plus, mais voilà, Twitter est rentable.
J'arrive pas à comprendre ce qui a changé pour qu'il puisse y avoir ce terrain positif pour Twitter, parce que je sais pas, je vois pas ce qui a pu changer finalement. Enfin, si, ils ont dégagé beaucoup de bots, mais j'ose pas imaginer que ce soit juste lié à ça qu'ils fassent autant de bénéfices. Donc, j'arrive pas bien à comprendre derrière. J'ai beau me creuser la tête, mais tant mieux, hein, tant mieux pour Twitter. J'ai pas l'impression que le modèle économique ait fondamentalement changé. J'ai pas l'impression que les dispositifs publicitaires soient vraiment différents non plus. Donc voilà, je suis un peu étonné, mais tant mieux pour eux. J'ai l'impression que c'est ton nouveau terrain de jeu au passage, Léo, Twitter, non ?
Je tweete beaucoup, hein, mais j'écris plus sur Twitter que je n'écris de vidéos, c'est terrible. Mais oui, je m'amuse bien. Je tweete. En fait, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, mais sur lesquels j'ai pas envie de faire de vidéos, tout simplement parce que ça nécessite pas de faire une vidéo, donc je les expose sur Twitter.
Ça se tient, ça se tient. Et il faut faire gaffe à pas se faire gagner quand même par les discussions trollesques. Ça peut aller très très vite comme sur Twitter, hein, j'ai l'impression.
Toute ma vie.
ByteDance, on le prononce comme ça ?
Oui, je pense, oui. Pourquoi ? Oui.
Non, je sais pas. Vous me disiez ByteDance, je sais pas.
Non, c'est ByteDance. ByteDance.
ByteDance. Alors, qu'est-ce que c'est ByteDance ?
ByteDance, c'est... D'abord, c'est toi qui as mis la news, mais ByteDance, c'est une...
J'avais complètement zappé, celle-là.
C'est une boîte...
Si. Vas-y.
Oui, bah c'est une boîte chinoise qui est propriétaire de deux gros trucs. Un agrégateur de news, globalement, chinois, et TikTok, qui est globalement la grosse appli de karaoké que tous les ados adorent en ce moment. Donc c'est une grosse... Alors bon, je connais pas, je ne chante pas. Je ne chante pas, c'est interdit. Il y a des gens à l'ONU qui se sont
réunis...
Les jeunes
dessus non plus ne chantent pas d'ailleurs.
Comment ?
Les jeunes qui utilisent ça et Musical.ly ne chantent pas non plus d'ailleurs, parce qu'en fait c'est du playback. Mais en fait,
mais
la raison pour laquelle j'ai mis cette
news... C'est pas du
karaoké ? Non, pas du tout,
non,
je crois
pas. Non, c'est du playback en fait. C'est du playback.
Bon, vas-y Léo, vas-y.
Quoique, t'as peut-être raison. Mais j'ai l'impression, Guillaume, que c'est ton nouveau terrain de jeu, ça, TikTok.
Alors justement, parlons-en. Je suis sur TikTok, je cumule les abonnés. Non, pas du tout. En fait, la raison pour laquelle je voulais juste relayer ça, bon, c'était le montant, évidemment, ça parle. Mais ce qui... En fait... Le mec qui raconte sa vie. J'ai croisé ma nièce il n'y a pas très longtemps, qui est une jeune adolescente donc au collège, comme on en connaît plein, j'imagine, mais qui me parlait des usages sur les smartphones de elle et ses copains et surtout ses copines. Et moi, j'étais resté encore au stade Snapchat, mais non, Snapchat, c'est has-been, hein, auprès des jeunes. Voilà, c'est Musical.ly et je suis marqué de voir, bon, d'une part, la créativité plus ou moins douteuse, mais quand même la créativité dont ils font preuve avec ce type d'application, et de me rendre compte à quel point un truc qui est aussi dirigé sur une action, donc de faire encore une fois pour moi du playback, mais peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent qui utilisent pleinement ces applications et qui pourront mieux nous détailler les usages, mais de ce qu'elle m'en a montré, c'est vraiment du playback, c'est-à-dire que tu as la musique qui défile et tu mimes le fait de chanter en faisant des mouvements qui sont d'ailleurs plus ou moins créatifs et que c'est plutôt pas mal pensé, et elle me disait c'est l'application qui est le plus utilisée autour d'elle. Alors c'est certifié Nièce de Guillaume, hein, ça veut pas dire que c'est une étude à une échelle nationale ou internationale, Mais j'étais marqué de me rendre compte qu'elle me disait non, Snapchat, pas tant que ça. Par contre, ouais, Musical.ly, on échange vachement, on suit les uns les autres et on interagit avec Musical.ly. J'étais assez impressionné de ces nouveaux usages, quoi. Donc voilà, 75 milliards de dollars, finalement, je comprends aussi que ça puisse être vite valorisé, même si quand tu regardes technologiquement l'application, c'est pas ouf quand même. Enfin bon. On continue du coup, plus d'argent pour le Gab, Guillaume ?
Oui, je suis sûr que t'as compris la blague.
Non.
Mais si, les Gab. Bah, ça veut dire guichet automatique de banque ?
Oui.
Ah. Voilà. Plus d'argent pour le Gab.
Ouais, ok, d'accord. Ok. Non, j'avais pas fait le lien. Ok, très bien.
Bon, enfin, donc Gab, c'est pas que ça. Hein. C'est aussi un Twitter pour ceux qui se sont fait virer de Twitter et de Reddit
ça,
et de 4chan et de tout le monde, voilà. Et donc, c'est un repère de gens sympathiques et plein de retenues, hein, comme par exemple Robert Bowers, qui est auteur de nombreux posts antisémites et de la tuerie de masse de Pittsburgh, a priori. Du coup, Gab est devenu une patate chaude un petit peu pour tous les prestataires des services Internet. Hein. Donc, il y a PayPal et Stripes qui l'ont viré, les services de paiement. Il y a GoDaddy et Joyent qui l'ont viré aussi, ainsi que Medium. Voilà, donc globalement, je pense qu'ils sont offline là maintenant. Et oserais-je dire bon débarras. Hein. Voilà, je pense qu'il va finir par trouver un moyen de survivre quand même. Mais en ce moment-là, ça fait un petit peu des vacances, c'est pas mal.
C'est bien, on a l'impression qu'il y a une conscience de la tech qui continue quand même sur certains aspects, c'est cool. Un dernier mot aussi dans la rubrique des sous, même si ce n'est pas un résultat financier et ce n'est pas forcément des gros sous, mais c'est des rumeurs qui indiqueraient que sur Android, Google permettrait, ou serait en tout cas en test, vous lirez les détails sur Frandroid, vous avez le lien dans les notes de l'émission, mais qui indiquerait que le Play Store vous permettrait peut-être dans quelques temps de prendre un abonnement, et comme sur Netflix, de prendre toutes les applications payantes que vous voulez. Alors, bon, c'est pas si simple, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour un tel service, mais je me disais que c'était peut-être une évolution intéressante, plutôt qu'aujourd'hui acheter des apps, d'avoir finalement des abonnements qui te permettraient de consommer des apps et qui remplaceraient des modèles économiques basés sur l'achat des apps et sur les abonnements. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vite victime d'un nombre important d'abonnements qu'on pourrait souscrire, de petits montants d'ailleurs. Mais c'est devenu vraiment l'usage maintenant type, c'est-à-dire que l'application est gratuite, mais on te demande quelques euros chaque mois pour l'utiliser. Et au cumul, au final, ça devient des sommes relativement importantes. D'ailleurs, moi, j'y préfère quand même l'achat d'applications qui sont peut-être beaucoup plus chères, mais qui valorisent vraiment le boulot des développeurs et sur lesquelles, derrière, je n'ai pas d'abonnement. Je préfère largement ça, mais je pense que le modèle aujourd'hui économique qui fonctionne le mieux, c'est effectivement de mettre à disposition une application gratuite et d'y mettre un abonnement. Du coup, peut-être de rationaliser tout ça avec des formes d'abonnement. Évidemment, c'est aucune annonce, hein, c'est de la rumeur et c'est de la réflexion, mais je trouvais ça intéressant en termes de dispositif. Je serais curieux d'avoir un peu votre avis. Léo, justement, tu prendrais ça comment si tu avais un Netflix des apps dans ton store sur ton smartphone ?
Alors déjà, j'aimerais bien savoir quand même les conditions du bousin, parce que je suis pas sûr que tu aies accès à toutes les applications. Peut-être que tu as un nombre limité, j'en sais rien. Peut-être que tous les développeurs ne seront pas d'accord. Ça peut être une bonne idée, en fait, parce que moi, j'en ai vraiment marre d'installer des apps qui ont l'air gratuites, dans lesquelles il y a des achats intégrés, mais je me dis que c'est peut-être pas grand-chose. Et au final, qui me disent, alors t'as pas accès à ça, mais si tu payes 3 euros par mois ou 5 euros par mois, tu pourras avoir accès. Je dis, ouais, enfin 3 euros plus 3 euros plus 3 euros plus 3 euros, étant donné que j'ai 100 applications sur mon iPhone et qu'il y en a 30 qui me demandent de payer 3 euros, bah, ça commence à faire cher. Donc j'en ai vraiment marre. Il faudrait proposer les deux, en fait. Il faudrait qu'ils proposent un prix qui est peut-être un peu élevé, mais qui permet d'acheter tout de suite. Et il faudrait qu'ils proposent aussi un abonnement, pourquoi pas, pour ceux qui préfèrent payer tous les mois et qui se disent que peut-être ils n'ont pas envie de dépenser la somme dès le début. Donc oui, pourquoi pas, un abonnement à la Netflix. Après, j'ai vraiment hâte de voir les conditions, parce que je suis pas sûr que ce soit si cool que ça, quoi.
Ouais, on n'est pas comme dans une plateforme de streaming de musique, par exemple, où grosso modo tous les albums ont à peu près le même prix, et où effectivement on peut prendre un abonnement et rationaliser ça auprès de tout le monde. Là, c'est bien différent, effectivement. Guillaume, t'es peut-être pas très victime, toi, hein, des applications comme ça, abonnements, etc. Je sais pas, je te vois pas beaucoup payer d'abonnements d'applications aussi.
Non, bah pas vraiment beaucoup, mais enfin surtout, je sais pas si ça va pas être très différent sur iOS et Android quand même, parce que j'ai l'impression que sur iOS les utilisateurs ont plus l'habitude d'acheter des applis, peut-être même un peu plus cher, alors que sur Android, très honnêtement, d'ailleurs on parle de Google, hein, du Play Store, il me semble, et du coup je suis un petit peu perplexe, parce que quand on voit, si tu veux, que pratiquement toutes les applis qui sont gratuites et que les applis payantes, pratiquement personne les achète. Je suis pas certain qu'un abonnement ait énormément de succès, même si, bon, par ailleurs, ça peut être une excellente idée, parce que effectivement, comme tu disais, si tu veux avoir des applis sans pub, si tu as l'habitude d'acheter des applis ou des jeux assez souvent, bah, ça peut être intéressant. comme disait Léo, il faut voir les conditions, mais même, ça va être compliqué de faire passer ça pour les utilisateurs Android moyens, pour qui tout est gratuit. Enfin, soyons clairs, quoi. Tout est gratuit sur Android. Je sais ce que tu penses.
Non, pas du tout.
Mais je sais que voilà, si c'est gratuit, je sais ce qui vient après. Mais bon, pratique, oui.
Je le pensais même pas dans ce sens-là, je le pensais plus dans le sens où, de toute façon, ça peut être craquable en fait.
Aussi, oui, il y a aussi ce versant-là, ce qui est beaucoup plus présent sur Android que sur Apple. Bon, moi perso, je le fais pas parce que, très honnêtement, comme je te disais, oui, si tu as une utilisation qui n'est pas extrêmement évoluée, il y a énormément d'applications qui sont disponibles gratuitement, et voilà, si tu supportes un peu de pub, ça marche aussi. Bon, voilà, je suis pas certain que sur Google Play, c'est un succès monstre, mais à voir.
À voir dans la démarche. En tout cas, ce qui risque de changer aussi, c'est la page d'accueil de Google hein, sur mobile. C'est pas souvent que Google fait évoluer ça, et pourtant, il va vraisemblablement revoir sa page d'accueil, l'ami Google, de son moteur de recherche et y intégrer Google Discover, alors qui existe déjà finalement, enfin qui est une espèce de, comment dire, dans Google Now, l'espèce de flux de cartes là, qui est censé refléter des news qui peuvent nous intéresser, qui sont basées sur nos centres d'intérêt, sur nos usages, sur notre géolocalisation, etc. On devrait de plus en plus se voir arriver ça, et finalement je me dis que c'est peut-être pas plus mal, quitte à utiliser Google, je pense qu'on peut adopter le principe jusqu'au bout, et ouais, profiter de cette page qui est peut-être parfois un peu vide, allez, pour nous détourner encore un peu plus de ce qu'on voulait faire, pourquoi pas. La minute sécurité, on va vraiment essayer d'aller là aussi très vite, mais juste pour mentionner cet article qui est disponible en exclu là, sur Le Figaro dans sa version premium, enfin l'article complet dans la version premium du Figaro, qui détaille une enquête de 4000 Français qui semblent avoir été visés par la Chine de manière très organisée. La manière dont ils ont été ciblés, c'est via des faux profils de Chinois qui font miroiter des perspectives économiques intéressantes pour les personnes qui sont ciblées sur LinkedIn en leur disant voilà, on a besoin de votre expertise, fournissez-nous des petites études, on va vous rémunérer. Ils les font venir en Chine, ils leur font vivre la belle vie pendant quelques jours et in fine, soit de manière volontaire, soit de manière un peu forcée, en ayant un certain nombre d'éléments compromettants, amènent à en faire des espions plutôt organisés pour la Chine. C'est assez flippant de voir qu'il peut y avoir autant de personnes qui aient pu être touchées par cette démarche-là. Il y a des personnes dans des entreprises plutôt bien placées en France, plutôt importantes, et au niveau de l'État. Donc, je ne pensais pas que ce serait aussi facile de toucher un volume aussi important de personnes en France, comme quoi l'appât du gain en touchera plus d'un.
C'est surtout choquant que la Chine ait besoin d'humains pour espionner.
Oui. Bah, je pense que c'est une ressource qu'ils ont, qu'ils savent mettre à profit, l'humain, finalement, la Chine, et ils savent bien le faire. Au niveau des renseignements là-bas, là où nous, on a quelques dizaines de milliers de personnes, ils ont plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est quelque chose qui est rappelé par l'article. Et donc, évidemment, tu imagines, ils sont mis à contribution, ces gens-là. Il faut bien qu'ils prouvent un petit peu qu'ils servent à quelque chose pour l'État chinois, enfin. Au passage, le trafic nord-américain régulièrement détourné, Guillaume ?
Ben ouais, parce que là tu parlais de la Chine, effectivement ils ont des moyens encore plus directs on va dire, puisqu'il semblerait que China Telecom, d'après des chercheurs en sécurité, se soit amusé, enfin même s'amuse d'ailleurs régulièrement à détourner des, en gros tous les flux réseaux vers la Chine, probablement pour le copier, et puis ensuite probablement pour le scanner et le décoder, avant de le relayer au reste du monde. Parce qu'ils ont quand même remarqué que China Telecom avait des points de présence un petit peu partout, à certains endroits au Canada et aux États-Unis, et ils ont remarqué qu'il y avait des routes bizarres, et il semblerait que China Telecom bidouille le Border Gateway Protocol, le BGP, qui est le protocole qui permet de router les paquets, en fait, sur le réseau. Donc, sur le réseau Internet, évidemment, les serveurs se refilent les paquets, ils utilisent un protocole pour ça, et pour trouver la route la plus courte, et il semble que c'est pas toujours la route la plus courte, bizarrement, qui est choisie, comme en 2016, où China Telecom a pris le trafic entre le Canada et la Corée, il l'a pris à Toronto, ensuite il l'a envoyé en Chine, et après il l'a envoyé sur la côte est américaine, puis ensuite en Corée. Donc évidemment, c'est une route qui n'est pas la plus courte possible, et donc c'est très étrange. Et ils ont fait ça, ils ont repéré plusieurs occurrences, donc il semblerait que, de manière parfaitement discrète et transparente pour l'utilisateur. Le trafic entre deux points qui n'ont rien à voir, hein, est parfois intercepté par la Chine, globalement. On ne sait pas pourquoi, mais on se doute un petit peu, puis ensuite relayé après. Donc voilà, on n'a pas vraiment plus d'infos que ça, mais bon, on se doute que ça doit être un truc à assez grande échelle.
On continue aussi, enfin c'est là où tu vois du coup Léo, on peut se dire que du coup ils ont les êtres humains qui sont investis sur LinkedIn et puis ils ont les machines qui fonctionnent aussi à plein régime pour récupérer le trafic, c'est bien, ils sont bien organisés, ils sont sur tous les fronts. Greiki, c'est ce boîtier, une espèce de boîtier, on va dire un Mac mini moche en fait, hein, je dirais pour le décrire visuellement, constitué de deux câbles Lightning qui permet encore jusqu'à iOS 11 de craquer les iPhones et donc de pouvoir accéder au contenu des iPhones qui se monnayait très très cher et c'est un outil officiel, hein. Il coûtait entre 15 000 et 30 000 dollars. C'est pas un outil de pirate pur, hein, mais c'était quelque chose qui était même commercialisé auprès des autorités notamment américaines et j'imagine d'autres pays, qui est désormais inopérant sur iOS 12 et donc voilà, c'était juste pour mentionner que quand on achète un boîtier de 15 000 à 30 000 dollars, j'espère qu'ils ont essayé de le rentabiliser très très vite parce que ça va peut-être plus servir à grand chose du coup. Donc le jeu du chat et de la souris continue. Il y aura sans doute un Greiki 2 qui sera disponible pour craquer sur iOS 12 jusqu'à ce qu'il soit rendu inopérant. Bref. Des SMS effacés sur le portable d'Alexandre Benalla, c'était un peu les gros titres de la presse, même générique, hein, ces derniers jours. Il y a eu un peu tous les retours d'experts. Il y a eu toutes les positions de la part des experts, et je mets des guillemets autour des experts, pour dire c'est possible, c'est pas possible, etc. En fait, le sujet n'est pas très clair, je voulais juste le mentionner sur cet aspect-là, sur le fait qu'on ne sait pas si le smartphone d'Alexandre Benalla est un smartphone qui est piloté par l'Elysée. Il y a des parcs de smartphones qui sont mis à disposition, que ce soit des Android ou d'ailleurs des iPhones, hein, pour les entreprises ou des institutions qui sont gérées en parc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un administrateur qui va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui seront centralisées. Et auquel cas, si jamais c'est un smartphone qui est géré par l'Elysée et par les services techniques de l'Elysée et qui a des outils d'administration, il est tout à fait imaginable que des messages aient pu être retirés ou que d'autres manipulations aient été faites. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, bah, évidemment, je vous renvoie aussi à l'article de Numérama sur le sujet qui, là encore, est dans les notes de l'émission. Les bots devront passer aussi le ReCAPTCHA V3. On en avait déjà un petit peu parlé, mais je crois qu'il est dispo maintenant en test et ça clôturera notre minute sécurité. Le ReCAPTCHA, c'est ce petit espace en bas d'une page web qu'on doit cocher où il y a marqué « Je ne suis pas un robot ». Et en l'occurrence, la troisième version ne vous amène pas à cocher puisqu'en fait, elle n'est même pas visible. Elle doit être implémentée sur le plus de pages possible. Ah ah, Google récupère peut-être des informations comme ça. Savoir. Mais par contre, en tout cas, il n'y a plus besoin de cocher et la fiabilité est encore a priori accrue, tant mieux. Il y a eu des détails sur la manière dont ça fonctionnait d'un point de vue utilisateur. Moi, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne vraiment sur le plan technique. On pourra peut-être creuser ça dans de futurs épisodes, bien entendu. Un sujet qui t'est cher, Guillaume, et qui clôturera nos news au global, c'est la préservation des jeux vidéo. On sait que tu avais réagi au fait que Nintendo s'activait pour faire fermer des sites qui hébergeaient des ROM de jeux d'anciennes consoles Nintendo, entre autres, hein. Et on sait que à côté de ton activité de président du CCE, tu es aussi président d'une activité qui vise à promouvoir la conservation du patrimoine vidéoludique. On avance un petit peu sur ce sujet ou pas ?
Aux États-Unis, oui, alors c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la librairie du Congrès a décidé qu'il serait légal donc non seulement de conserver des jeux vidéo monojoueurs qui demanderaient un DRM, si tu veux, un appel au serveur comme DRM, et de contourner ce DRM pour pouvoir les conserver et continuer à y jouer, mais aussi pour des jeux multijoueurs désormais. Donc on avait un petit peu peur parce que, si tu veux, c'est renouvelé tous les X années, ces trucs, hein, et il y avait eu donc une grosse bataille entre les pros et les anti-DRM, globalement, pour savoir si ce qui était déjà acquis allait être éliminé ou si ça allait être étendu. Bon, il se trouve que ça va être étendu aux jeux multijoueurs, donc globalement, il faut imaginer une sorte de voilà, comme World of Warcraft par exemple, dans quelques années, Bon, si les archivistes sont capables d'avoir le code, légalement, hein, sont capables d'avoir le code du serveur et le code du client, ben, ils peuvent fabriquer un serveur, un serveur privé sur lequel ils peuvent travailler en tant qu'archiviste, quoi. Donc ça sera permis. Bon, évidemment, c'est un petit peu restrictif parce qu'avoir le code légalement, ben, c'est compliqué, surtout du côté serveur, parce que c'est pas forcément un code qui est disponible de manière très très, oui, très très facile. Et en plus, c'est pas forcément un code que les entreprises conservent toujours. Donc ça peut être un peu compliqué, mais bon, ça va quand même dans le bon sens parce que ben, on courait le risque justement que même le contournement du DRM dans les cas monojoueurs comme on avait soit tombe quoi cette année, et c'est pas le cas, donc ça va plutôt dans le bon sens, même si bon, c'est pas forcément idéal, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, en tout cas aux États-Unis, hein, bien entendu.
Il y a beaucoup de serveurs, hein, privés, notamment World of Warcraft, je crois savoir qu'il y a beaucoup de serveurs comme ça,
oui.
Qui reproduisent le
tout à
le
fait,
jeu.
Je ne sais pas trop
comment ils arrivent à le créer, ce truc.
C'est fait par reverse engineering, comme souvent, c'est-à-dire comme les émulations, c'est un peu comme de l'émulation, c'est-à-dire c'est reverse engineering, c'est-à-dire qu'on prend un jeu donc, normal et on analyse les requêtes qu'il fait au serveur en fonction de ce que tu fais, et on associe à chaque requête une action, et on recrée comme ça un serveur de manière complètement artificielle.
C'est terriblement long, en fait.
C'est terriblement long, mais c'est aussi comme ça que sont faits beaucoup d'émulateurs pour les consoles dont les fonctions ne sont pas documentées de manière publique, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc du coup, oui, c'est un gros travail, mais ça permet d'une part forcément de jouer à World of Warcraft sans payer, hein, ça c'est sûr, mais à plus long terme, c'est le genre de truc qui pourrait aussi permettre de sauvegarder des jeux vidéo qui ne pourraient pas être sauvegardés sinon. Bon, on n'en est pas encore là, puisque le reverse engineering est dans ce cas-là et reste interdit, mais bon, peut-être un petit peu plus tard, on va savoir.
Mais peut-être même dans une autre mesure, je ne sais pas si aujourd'hui, ça c'est une vraie méconnaissance de ma part, je ne sais pas si par exemple tu peux jouer de manière officielle, hein, j'entends sans serveur privé, à par exemple World of Warcraft, mais sans extension. Je ne pense pas que Blizzard maintienne des serveurs sans extension, quoi.
Et du coup, le monde
de World of Warcraft, je donne cet exemple parce que c'est un truc auquel j'ai joué, mais le monde de World of Warcraft original dit Vanilla, bah, finalement, d'un point de vue patrimoine vidéoludique, il a quelque part disparu, à moins évidemment qu'il y ait des serveurs privés qui le maintiennent, quoi.
Ben oui, mais je pense qu'il y a des serveurs Cataclysme, il y a des serveurs Vanilla, je pense que ça se fait encore, mais c'est pas du tout légal, à mon avis c'est pas légal, et je pense que
Blizzard,
ah oui, comme ça, Blizzard leur fait la guerre systématiquement dès qu'il les trouve, oui.
J'avais pas cerné pour terminer, Léo, ton profil vidéoludique, t'es joueur, t'es pas joueur, est-ce que c'est une cause qui t'émeut, la conservation du patrimoine?
J'ai été très joueur, j'ai joué notamment au début de ma carrière YouTube, où c'était du gaming sur Dailymotion à l'époque, je le suis toujours aujourd'hui, juste parce que Fortnite est arrivé dans ma vie. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai été victime de ce jeu comme pas possible. Je pensais jamais l'être, et finalement, si, je suis extrêmement faible.
Oh là là, mais c'est vraiment le jeu pour lequel moi j'ai accepté, tu sais, c'est comme Musical.ly, etc. Pour moi, j'ai accepté que j'étais trop vieux pour ça, parce qu'à chaque fois que j'essayais, je me faisais trop démonter.
Alors, moi aussi, hein, je n'ai pas dit que j'étais bon, j'ai dit que je jouais.
Mais tu y prends plaisir. Il va falloir que je reteste, peut-être que je vais prendre plaisir à force de me faire.
Ah, moi, ça a été au deuxième test, hein, que je me suis fait au jeu. Hein. La première fois, je n'avais pas aimé.
D'accord, peut-être que je vais m'y replonger sur la Switch, tiens, va savoir. On vous a fait, je pense, vraiment tout ce qu'il fallait pour être à jour dans les news tech de la semaine. Là, vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Mais on ne se quitte pas sans un petit tour du côté des bonus. Léo, qu'as-tu prévu dans ta besace pour les bonus de cet épisode 104 de Tech Café?
Mais écoute, mon bonus est un coup de cœur. C'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Jonathan Morrison. C'est un youtubeur américain tech qui a fait une vidéo que j'espérais vraiment que quelqu'un la fasse. Il avait fait plusieurs tests, en fait, de l'iPhone XR où il expliquait que l'écran, contrairement à ce que Internet semblait dire, n'était pas mauvais. C'était pas le meilleur écran, mais il n'était pas du tout mauvais. Et il s'est pris une foule de commentaires de gens qui disent « Non, mais l'écran, il est 720p, même l'écran de mon Pocophone à 300€ et 1080p. » Et donc, il a fait un test drastique, mais c'est incontestable. Il a pris un Pocophone, pour faire référence aux commentaires, donc un Pocophone avec un écran 1080p, et un iPhone XR avec un écran non pas 720p, mais 828p. Il faudrait retenir cette caractéristique.
Ah oui.
Il a mis les deux. Côte à côte, il a mis la même vidéo et il a masqué les smartphones, forcément, juste montrer l'écran. Et il a demandé à des gens, random, de choisir l'écran qui leur semblait le plus qualitatif. Et sans aucune exception, tout le monde a choisi l'iPhone XR. Alors moi mais j'étais, mais quand, rien que quand j'ai vu le titre de la vidéo, vraiment c'était d'une jouissance, c'était exceptionnel parce que j'ai pris exactement les mêmes commentaires sur Twitter. Le but, il faut bien comprendre de cette vidéo, c'est pas de dire que l'iPhone XR a le meilleur écran du monde. C'est absolument pas vrai. Il faudrait le voir à côté d'un S8, d'un S9, etc. pour voir ce que ça donne. Il sera forcément moins bon vu que déjà c'est du LCD. Effectivement, il n'a pas une super définition. Le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens que une caractéristique seule ne peut pas, on peut pas juger un produit, on peut pas juger un écran sur une caractéristique seule qui est juste, ah bah lui il est 828p, lui il est 1080p. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, donc il faudrait plus avoir l'habitude de plus tester, vraiment prendre en main les appareils pour se faire un avis plutôt que de juste dire ah bah j'ai vu ça sur la fiche technique, du coup c'est forcément mauvais. Donc voilà, je vous conseille cette vidéo qui moi personnellement m'a fait beaucoup rire.
Et qui dure 6 minutes, donc en plus c'est assez
C'est
vite
rapide.
expédié. Merci beaucoup Léo, c'est intéressant, faudra que j'aille la voir, je l'ai même pas vu, j'ai juste vu les commentaires qui tournaient sur les réseaux sociaux sur le sujet, il faut quand même que je vois l'original. Guillaume, tu es le seul à avoir respecté une ligne directrice que tu as d'ailleurs installée toi-même,
C'est faux. Voilà,
mais qu'on n'a
parce
pas
que
suivi.
tu l'as installé toi-même.
Qui était donc de faire une ligne directrice qui faisait peur, puisque tu avais même appelé cet épisode l'épisode qui fait peur. Et pour des raisons de référencement naturel et bassement mercantile de ma part, je voudrais surfer sur les marques qui font cliquer. Donc ça ne s'appellera pas l'épisode qui fait peur, mais dans ton cœur, ça s'appelle quand même l'épisode qui fait peur, et je te le concède. Et du coup, tu as quelque chose en lien avec la peur, du coup.
Oui, c'est une vidéo, elle fait pas 6 minutes par contre, parce qu'elle fait 1 heure et demie. C'est un film d'horreur, enfin c'est un film fantastique, on va dire, parce que c'est tout simplement Vidéodrome. Donc c'est un des premiers films de David Cronenberg. Donc c'est évidemment, il fallait un film d'horreur pour Halloween, c'était pourtant clair. En tout cas, dans ma tête, tout
Il n'y
était
avait
très
pas besoin
clair.
d'une directrice, c'est clair.
C'est ça. Et donc oui, pour faire écho à ce qu'on a dit en section de dystopie, là je pense que Vidéodrome, bah, ça s'impose. Hein. C'est un film fantastique assez étrange de 84 qui déjà s'interroge pas mal sur notre relation aux médias, et à l'époque c'était la télévision. Voilà, c'est assez bizarre, c'est très malaisant, c'est parfait en fait pour une nuit d'Halloween.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec Cronenberg. Je pense que Cronenberg plus film d'horreur, je sais pas, c'est pas fait pour moi, je
Alors,
pense.
pour être dans le thème, moi je vous recommande aussi un film d'horreur qui est tout aussi malaisant, je pense, que ton film. Les dernières publicités de Samsung sont géniales.
Après, on va se faire pourrir dans les commentaires parce
C'est le
qu'on est
but.
hyper
C'est
Samsung.
drôle.
C'est pas bien. Bon, je ne relève même pas. Je vous fais part rapidement de mon bonus parce que j'ai enfin pris le temps de terminer la dernière saison, ou en tout cas ce qui est disponible de la dernière saison de Better Call Saul, qui est le spin-off de Breaking Bad. Je ne saurais que recommander à ceux qui ne connaissent pas ces séries déjà de les voir. Même si vous n'avez pas vu Breaking Bad, Better Call Saul est, selon moi, même encore meilleur que Breaking Bad. Et pour tous ceux qui pourraient être rebutés par des premiers épisodes, allez un petit peu plus loin parce que ces séries, donc les deux, hein, Breaking Bad et Better Call Saul, sont basées sur une manière de diffuser le contenu qui est assez unique. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'équivalents dans les séries ou dans les films, mais tout est basé sur des plans qui sont extrêmement longs. Donc je le vends très mal en disant ça. Mais la manière dont sont amenés ces plans longs et la manière dont on habitue le spectateur à visionner les scènes de manière très longue fait qu'on est très très vite installé et captivé dans un rythme que j'ai vraiment trouvé nulle part ailleurs. Les histoires sont souvent drôles, aussi dérangeantes, très très bien écrite, et encore une fois sur la réalisation, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc si jamais vous vous êtes passé à côté, mais c'est des choses à succès, donc je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui découvrira ces séries, et si vous êtes passé à côté de Breaking Bad ou Better Call Saul, c'est hyper important que vous testiez, et je recommande peut-être encore plus Better Call Saul, qui est moins clivant, moins gênant au départ, peut-être plus drôle, mieux écrit, et ouais, qui est plus récent et qui fonctionne selon moi presque encore mieux.
Tu préfères Better Call Saul à la meilleure série du monde?
Ben ouais, c'est pour ça. Mais moi aussi, je trouve que
Ah,
Breaking
ça.
Bad, c'est la meilleure série du monde. Et pourtant, je trouve
Il
que
va
Better Call
falloir que
Saul
je
est presque
retente
meilleur.
alors. Il va falloir que je retente parce que
Ah,
vraiment, j'ai
vraiment?
regardé quelques épisodes et me suis dit, vas-y, j'ai autre chose à
Ah,
faire.
je trouve que c'est grandissant. Les
Ok.
derniers épisodes, là, sont assez incroyables. Enfin,
Ok,
je trouve
intéressant.
que c'est très bien écrit. C'est la quintessence pour moi de Breaking Bad. Merci beaucoup Léo, Guillaume pour cet épisode.
Avec plaisir.
On va faire le petit tour, hein, comme d'habitude, pour rappeler où est-ce qu'on peut se retrouver les uns les autres individuellement sur Internet. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Et bien sur Twitter et sur Instagram, Léo Duff at Léo Duff Off, comme officiel, hein, Léo Duff Off, ça me faisait marrer. Et sur YouTube, tout simplement, Léo Duff, voilà, comme Léo comme le prénom et Duff comme la bière.
Ah, bien joué, j'avais jamais fait le rapprochement. Merci Léo. On a de toute façon les liens dans les notes de l'émission. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans Tech Café. Guillaume Poggiaspala, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet?
Des fois, je honte Telegram.
Dans les épisodes qui font peur ou pas?
Pas que, mais bon, c'est vrai que je suis pas là très très souvent. Je suis très spectral, faut dire.
C'est bien, c'est dans le thème.
Il a mis une photo de profil avec une encoche.
Jamais de la vie.
Assume.
Over my dead body.
Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouverez partout ou quand vous cherchez Guillaume Vendée, vous avez des résultats sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup pour vos soutiens épisode après épisode, merci de nous écouter, merci de partager aussi Tech Café à votre entourage et on se donne rendez-vous dans un tout prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Salut.
Ciao, ciao.